Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier numéro, enfin premier vrai numéro du rendez-vous jeu de l'année 2019. On va vous parler des jeux qu'on attend le plus pour cette année à venir. On va vous parler de Epic et de son Game Store qui va envahir le monde, de l'incroyable annonce de la scission entre Activision et Bungie, avec plein de choses à commenter là-dessus. On aura aussi plein d'autres petites news. Je suis Patrick Béja et comme d'habitude, on va couvrir toutes les news de l'industrie du jeu vidéo et des jeux en général, les jeux auxquels on a joué ces derniers temps, peut-être un petit peu aussi. Et pour m'accompagner dans cette grande aventure, j'ai le plaisir de recevoir Jika, qui se joint à nous quasiment tous les mois. Comment ça va, Jika ?
Yes, bah très bien, écoute, on est chaud là pour reprendre l'année. Hein.
Oui, carrément.
C'est une entre-matière assez nulle, hein. J'aurais dû plus travailler mon texte. Je ne savais pas quoi dire, tu m'as surpris, j'étais en train de boire mon café.
On est chaud pour commencer l'année. Écoute,
voilà,
c'est mieux que...
Bien content de te rejoindre.
C'est mieux que ce que je faisais juste avant qu'on commence à enregistrer, qui était une référence à Pas de pitié pour les croissants, dont j'ai écorché le nom en disant « Bonjour les croissants ». Franchement...
on voit que vous êtes de notre époque, hein, quand même.
Oui, c'est un peu ça. cette voix suave que vous entendez est celle de Mimic, alias Aymeric Lallet, qui se joint à nous de temps en temps dans l'émission. Comment ça va, Mimic ?
Ben écoute, ça va très bien. L'année, c'est très bien terminé et je pense que cette année 2019 va être assez énorme. T'as vu, Jika, comment c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois.
Voilà. Oui, ça va. Moi, ça fait 2 ans que je fais cette émission, tu vois. Au bout d'un moment.
Lui, il est dans ses pantoufles, il est bon, il n'y a pas de problème. Mimic, alors Jika, on te connaît, hein, les numériques, ZQSD, tout ça. Mimic, tu nous rejoins de la grande maison du jeu vidéo, de la presse jeu vidéo française. De Webedia, c'est un petit peu l'overlord qui nous regarde tous.
Exactement, sur jeuxvideo.com, IGN France et Millennium. Et un petit peu de jeux actu aussi, jeuxactu.com, qui fait partie du groupe aussi. Donc voilà, je travaille sur ces 4 sites-là.
Voilà, et tu es bien sûr, on en parlait juste avant l'émission, un vétéran de la presse jeux vidéo en France, et on se remémorait avec Jika, c'est ça, les moments où vous vous retrouviez dans des presse tours inconfortables, pour aller jouer les grands reporters en fait du jeu vidéo.
Exactement, tout à fait, voilà. Bon, c'est quand même moins dangereux que quand tu sors à Paris, en ce moment, mais... Oui.
Au pire, on pouvait s'être tout fait avec un petit four, tu vois, c'est
voilà,
pire
c'est ça, arriver, voilà.
Bon, écoutez,
on a de belles anecdotes en tout cas.
Voilà. Oui, peut-être qu'il faudra un jour en révéler certaines, mais ça n'est pas encore aujourd'hui. J'entends un « oh oui » enthousiaste, peut-être que ça sera au programme de 2019.
Avec plaisir.
C'est une bonne idée, peut-être réunir quelques anciens de la presse jeux vidéo et puis essayer de voir un petit peu les anecdotes. Alors il faudra que la prescription soit passée, je sais pas, des trucs qui ont plus de 10 ans, mais ça serait intéressant à discuter.
On a du stock.
Bon, on va commencer en tout cas cet épisode avec les jeux les plus attendus de 2019. C'est un petit peu une tradition dans cette émission et je crois dans toutes les émissions et dans toutes les publications de du jeu vidéo dans le monde, mais on ne va pas y déroger. Et on a donc pour les premiers mois de l'année, on a pas mal de dates, pour les, on va dire, 4-5 premiers mois de l'année. Pour les mois suivants, enfin, il y a beaucoup de jeux qui sont sans date sur l'année 2019, donc on va en parler également, mais on va commencer en faisant mois par mois, peut-être, parce que l'année commence assez fort, et le mois de janvier, bon, c'est quand même pas ridicule non plus. On a, pour le mois de janvier, New Super Mario Bros. Wii. Pardon, les noms des jeux Nintendo, ça commence à devenir compliqué.
C'est pas le premier.
Oui, c'est ça. New Super Mario Bros. U Deluxe, qui est sorti il y a quelques jours, le 11. Ace Combat 7, qui sort le 18. Ace Combat 7 Skies Unknown. Le 25, on a Resident Evil 2, le remake, remaster, comme vous voulez. Mm-hmm. Peut-être un remaster. Non, un remake, en fait. Le 29,
oui,
surtout...
Oui, c'est complètement un remake. Là,
oui, c'est complètement un remake, c'est vrai. Non, mais je confonds toujours les deux. Et le 29, on a Kingdom Hearts 3. Lesquels de ces jeux vous attendez le plus? Honneur aux gens qui ne sont pas là souvent. Aymeric, dis-nous tout.
Alors moi, sans hésitation, c'est Resident Evil 2. Alors évidemment, pour la nostalgie, hein, y a pas à tortiller. C'était une révolution à l'époque où c'est sorti. Bon, la vraie révolution, c'était Resident Evil sur PlayStation, mais Biohazard en version Jap. Mais Resident Evil 2 a marqué aussi beaucoup l'époque avec ses deux personnages, avec ses deux histoires qui se croisaient, etc. Bon, là, ce sera un petit peu différent dans ce remake. Mais là, en plus, la démo est tombée il y a quelques jours, je crois qu'elle a dû tomber vendredi. Alors, c'est une one-shot démo, donc que tout le monde peut essayer sur PC, Xbox One ou PS4. Mais on n'a qu'une demi-heure pour y jouer. Donc, quoi que vous fassiez, vous téléchargez le jeu, vous lancez le truc, vous avez une demi-heure pour y jouer, après, c'est fini. Mais ça donne déjà un très, très bon avant-goût de ce que ça peut être. Et évidemment, donc, la caméra est désormais à l'épaule. Ils ont tout refait de A à Z, donc le gameplay n'est plus le même. Même la manière dont l'histoire se déroule n'est plus la même, et la manière dont les deux persos sont traité n'est plus du tout la même non plus. Et donc moi, c'est vraiment le jeu que j'attends le plus ce mois-ci, sans la moindre hésitation. Et j'ai aussi une petite attente, c'est Escombat 7, simplement parce que je me suis récupéré un PSVR à titre perso il y a quelques semaines de ça, c'est quelques mois de ça, et j'ai hâte de voir ce que donne les missions en VR, évidemment, parce que tout le jeu sera pas en VR, il y aura quelques missions en VR, et je suis un gros fan de Escombat, donc voilà en gros les deux jeux que j'attends le plus.
Je me demande s'ils vont fournir le sac le sac à vomi avec Escombat 7, parce que il y a des jeux qui fonctionnent, autant un jeu de combat en avion de chasse, ça risque d'être un peu compliqué, mais peut-être.
Ouais, mais je souffre pas de ça, pardon, c'est magique. Moi, je souffre pas du tout de ça. Je joue beaucoup à Wipeout en VR et je dois reconnaître que ça fonctionne très très bien chez moi, donc je suis très impatient.
Et puis pour le coup, là, les effets de cinétose, etc., ce sont souvent dans les jeux avec cockpit où t'es le moins malade. Donc, effectivement, les Wipeout et notamment les jeux type Escombat, j'ai pas essayé, mais j'ai essayé des genres F Valkyrie, etc. C'est des jeux pourtant, ce qu'on peut croire, on n'est vraiment pas malade. Là, on est malade, c'est quand on simule la marche, en fait. Ce qui n'est pas le cas, puisque là, on est dans un cockpit. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser de problème.
Et alors, ce qui est marrant, justement, pour rester sur Resident Evil 2, c'est que moi, j'ai fait la démo sur PS4 avec mon casque VR. Parce qu'avec le PSVR, tu peux jouer à tous les jeux en VR. En fait, c'est devant toi, tu as un écran, en fait, gigantesque qui est mis dans ton casque VR, où tu as le jeu qui apparaît en beaucoup plus large que ce qu'il n'est, quoi. Et j'ai eu un petit sentiment de vomi très léger. Lorsque je marchais dans le commissariat avec Léon, tu vois.
Donc, comme quoi, t'arrive de temps en temps. Ouais.
Oui, mais c'est très rare, vraiment, c'est très, très rare.
D'accord. Bah, on va pouvoir reparler de réalité virtuelle un petit peu plus tard, quand on va parler de ce qui se passe chez HTC. Mais c'est intéressant que toi aussi, tu dises « Ah, bah, j'ai récupéré un PSVR ». Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça à l'occasion de ces fêtes de fin d'année et qui en sont plutôt satisfaits. Bah oui, c'est ça. Donc, bon, on en reparlera. JK, toi, c'est quoi que tu attends ? Qu'est-ce que t'attends ?
Bah pour le coup je vais aller dans le sens d'Emeric, Resident Evil à fond. Là ça sort il sort la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Et puis en plus au-delà d'être vu, effectivement c'est un remake, mais pareil, j'ai pas joué à la démo, mais j'avais fait une démo en salon à la Gamescom, il me semble. C'est vraiment, pour moi, je l'aborde presque comme un nouveau Resident Evil, en fait, parce qu'ils ont vraiment tellement en termes de, évidemment, visuellement, en fait, souvenez-vous du Resident Evil Rebirth qui était sur GameCube, qui était un remake du premier, qui est un excellent remake, mais qui gardait le même système de jeu, les mêmes caméras fixes, etc. Là, c'est vraiment, on est plus dans un truc dans un truc beaucoup plus moderne, avec ils ont refait les énigmes, ils ont refait les combats, ils ont refait le moteur graphique. Enfin, vraiment, c'est un nouveau Resident Evil, et ça a l'air vraiment très très cool. Et en plus, ils sont revenus en grâce avec, pour moi en tout cas, mes yeux, avec Resident Evil 7, qui a été vraiment l'épisode du retour de la série, quoi. Donc sans hésiter, c'est clairement ce que j'attends le plus. Le jeu que j'attends le plus ce mois-ci. Ouais.
J'allais vous reprocher d'être des vieux qui se plaignent tout le temps qu'on fasse pas des trucs nouveaux, et puis tout à coup, quand il y a des trucs vieux qui sont refaits et remis à une nouvelle sauce, tout le monde est surexcité, et après on va se plaindre qu'il n'y a pas de créativité et d'inventivité dans le jeu vidéo. En même temps, je pense que je vais dire ce que tu allais dire. Sur cette liste-là des jeux que j'ai retenus pour janvier, il n'y a que des suites ou des remakes ou des machins. Donc, c'est sûr que c'était difficile de choisir.
Sauf Resident Evil, pour le coup.
Ce que dit
JK est vrai. C'est vraiment pas du tout le même jeu, en fait.
Il y a un vrai boulot de remake. Hein,
d'accord. Admettons même que ça ne soit pas Resident Evil 2, c'est quand même un Resident Evil qui se repose sur la popularité de la saga.
Je suis d'accord, mais c'est sûrement celui qui prend le plus de risques entre guillemets dans cette suite.
Peut-être,
de suite.
Ouais. Oui.
Tu vois,
oui.
C'est ça. C'est
enfin,
ça, c'est
risque, ça faut mettre. Oui, faut mettre des guillemets au mot risque, mais je comprends ce que tu veux dire effectivement.
Bah, tu sais, Resident 7, c'était un gros risque. Hein. Donc, je veux dire,
Resident 7, oui. Celui-là, je suis pas convaincu que ça soit un gros risque.
Bah, en fait, je pense qu'ils sont quasiment sûrs de leur coup, au point qu'il y ait des rumeurs où déjà le 3 soit déjà en préparation, en format remake.
C'est possible. Voilà. Bon, aucun d'entre vous n'a choisi Kingdom Hearts 3 et moi non plus, sans doute au grand dam de nombreux auditeurs qui l'attendent avec impatience. Ouais, moi, je suis pas.
À mon avis, c'est un jeu qui est extrêmement attendu. Mais...
Ah ben oui, complètement. Je pense que c'est sans doute le plus attendu de cette série, enfin de cette liste. Et moi, je vais mentionner très très rapidement New Super Mario Bros. U Deluxe, qui était mon jeu le plus attendu du mois, que j'ai acheté et que j'ai joué, auquel j'ai joué beaucoup ce week-end. Ma femme et mon fils étaient en vadrouille et j'y ai passé beaucoup de temps. Alors, c'est pas que le jeu soit incroyable. Il est sympa, il est mignon, c'est un bon petit Mario 2D, mais c'est juste que c'est exactement ce que je voulais au bon moment, un petit jeu compact, sympa, qui me fait, comment dire, mignon, qui te fait te sentir bien, et qui franchement est pas... Tiens, il y a quand même un truc que je peux dire à propos de New Super Mario Bros. U, ils ont ajouté des persos encore plus faciles, et là où, il y a quelques années, j'aurais regardé ça en disant, bah, mes persos invulnérables, machin, qu'est-ce que c'est que ces conneries, on n'en a pas besoin, Mario, ça se joue, c'est un petit peu difficile, un minimum, enfin certains niveaux ça devient un petit peu dur, et en fait maintenant que j'ai un enfant, bon il est trop petit pour jouer à ce genre de choses, mais j'imagine comme JK, dès que je suis en train de jouer à un jeu, je me dis, ah mais est-ce que celui-là, surtout Mario qui est l'un des jeux avec lesquels on a découvert le jeu vidéo quand nous-mêmes on était plus jeunes, est-ce que à un moment je pourrais y jouer avec mon fils? Et évidemment c'est vraiment difficile, à partir d'un certain niveau c'est vraiment vraiment difficile, mécaniquement c'est compliqué, et le fait d'avoir des persos super faciles, c'est pas les gens s'en moquent un petit peu en disant ah c'est Mario pour les bébés machin, bah oui, non mais c'est vraiment ça, c'est Mario pour les jeunes, pour les enfants qui puissent commencer à jouer un petit peu, soit avec leurs parents, soit même apprendre tout seul, et il y a complètement une légitimité d'avoir ce type de perso dans ces jeux là quoi. Donc voilà, moi je suis
complètement d'accord avec ça, et puis surtout tu peux ajuster ta difficulté, puisque tu peux prendre un perso qui est pas forcément invulnérable ou qui est pas super facile justement.
C'est ça, oui.
Et arriver à certains niveaux, c'est là qu'on voit que le talent de Nintendo pour faire des jeux, enfin qu'on répète depuis des années, mais je veux dire c'est pas un hasard, qui sont capables de proposer quelque chose qui soit à la fois pour les tout petits, à la fois pour les joueurs moyens et à la fois pour les joueurs hardcore qui veulent aller faire les choses dans les niveaux dans le avec une difficulté très très élevée quoi. Donc c'est logique tout ça. Tout ça est logique.
Et d'autant plus que merci. D'autant plus que c'est bien fait parce que le niveau tu le passes, mais il est pas cleared. Donc t'as une petite indication qui te montre que tu l'as fait en facile. Donc bref, très bien. Passons à février. On va avancer un petit peu plus vite. En fait, on parle beaucoup. Crackdown 3, Jump Force, Far Cry New Dawn et tout ça c'est le 15 si je ne m'abuse et le 22
le même jour.
Ouais. Et le 22
c'est les moins bons.
C'est ça. Encore que le 22, on a Anthem et Metro Exodus. Je précise aussi, je ne l'ai pas dit en débutant cette liste, c'est une certaine sélection. Je suis sûr qu'il y a plein de jeux auxquels certains auditeurs penseront, qui diront, et ils diront, ah mais pourquoi vous n'avez pas parlé de tel ou tel jeu? On ne peut pas tout mentionner. Là, c'est une sélection, je suis sûr qu'on en oublie.
Il y a aussi tous les jeux indés, etc. Mais bon, sinon, on n'est pas sorti, quoi.
C'est ça.
Donc, vas-y. Tiens, je prends la main. Alors, j'attends énormément Crackdown 3. Non, je plaisante.
Moi, je l'ai mis. Ah, mais il y en a un truc attendu.
Ah, mais c'est terrible. Crackdown. Alors, après, ça se trouve, ça va être bien. On n'en est pas à l'abri d'une surprise, mais c'est vraiment le jeu. C'est le jeu Joseph, quoi, pour moi. C'est le jeu vraiment. Le pauvre, il sort comme. Enfin, pour moi, il va sortir dans la différence. J'en sais rien. Ah, c'est une licence qui a eu son petit succès, je crois, aux États-Unis notamment. Mais bon, bref. Ouais. Par curiosité, même si je suis assez peu optimiste, je voudrais voir ce que va donner Far Cry New Dawn, parce que je trouve que souvent la série Far Cry, elle n'est pas exceptionnelle d'une manière générale, mais sur les spin-offs, ils s'en sortent toujours presque mieux que sur les épisodes canoniques. Pour moi, celui
de la préhistoire, Blood Dragon, quoi.
Blood Dragon, j'adore. Alors d'une manière totalement peut-être irrationnelle, j'adore Blood Dragon. Celui qui se passait à la préhistoire, dont j'ai oublié le nom, était plutôt intéressant. Oui. Et ouais. Là, le
Primal, c'est ça.
Primal, voilà, était plutôt intéressant et je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire sur New Dawn. Après, bon,
post-apocalyptique, voilà, pour ceux qui s'en souviennent pas.
Ouais, voilà, ça se passe après l'apocalypse. Après, évidemment, moi, ma grosse attente du mois, c'est Metro Exodus depuis très longtemps, quoi. C'est un des jeux que j'attends le plus cette année, donc voilà.
D'accord. Aymeric.
Metro Exodus aussi pour la. Alors, évidemment, déjà pour la saga en elle-même, hein, quand on pense au Metro, rien que le background, etc., est juste génial. Les deux jeux qu'il y a eu précédemment étaient super. Mais pour ce Metro Exodus, je pense que ce qui intéressera celui qui arrive un petit peu dans le milieu du jeu vidéo, qui découvre cette licence, c'est surtout la claque technique qui est promise. Et c'est surtout ça qu'on attend sur ce jeu-là. Et puis cette ambiance très très sombre et un peu post-apo qui est pas désagréable. Crackdown aussi, j'attends. Alors, tout simplement parce qu'il a eu du mal à accoucher et que ça va être un jeu fer de lance pour Microsoft, notamment sur son Game Pass, etc. Sur son Game Pass, c'est ça. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait pour essayer de rattraper le coup. Donc, j'ai quand même des espoirs parce que je me dis, ils ont tellement galéré qu'ils ne peuvent pas se permettre de le louper. Donc, soit dans le pire des cas, ce sera un jeu complètement raté et à ce moment-là, ce sera la risée du mois de février. Soit ce sera une bonne surprise. Donc, j'y crois encore. Et il y a Anthem aussi. Anthem,
merci quand même.
Oui, non, mais bien sûr, Anthem. Alors, tout le monde crache un peu dessus. Évidemment, on voit le clone de Destiny. On voit le mauvais Mass Effect, le dernier Mass Effect qui n'était pas très bon. Donc, du coup, tout le monde crache un petit peu sur Anthem. Moi, j'ai de très bons espoirs. Toutes les phases de gameplay que j'ai pu voir, je les trouve très encourageantes. Donc, non, je pense que ça va être aussi un des gros jeux. Metro Exodus et Anthem, sans hésitation.
Vas-y, JK.
Non, juste très rapidement sur Anthem. Je suis un peu comme Aymeric. Enfin, c'est-à-dire que j'étais extrêmement déçu. Enfin, pas déçu, mais j'étais extrêmement tiède sur le jeu jusqu'à peu parce que ça m'ennuyait de voir BioWare verser dans le jeu en tant que serveur, le jeu à la Destiny, etc. Et de toutes les personnes qui ont pu l'essayer en salon, moi, j'ai pas eu l'occasion malheureusement en preview ou en salon, ils ont tous été extrêmement très agréablement surpris par le jeu. Du coup, je suis très curieux. J'ai toujours quelques réticences, mais je suis quand même très curieux et j'ai hâte d'y jouer, quoi.
Ouais, moi je suis. Alors je précise que Metro Exodus, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu qui est développé par un studio ukrainien. C'est 4A Games, si je ne m'abuse. Et c'est une ambiance particulière du fait que ça soit développé par cette équipe. On a un petit peu cette vibe. Bon, je vais me mettre à dos des Ukrainiens, mais cette vibe russe ou simili-russe qui est une ambiance particulière. Donc pour un FPS de ce type-là, c'est ça qui est un petit peu, je crois, rafraîchissant et même que les gens attendent. De la série Metro, c'est cette ambiance un petit peu différente.
Et alors, on peut déjà se procurer les Metro 2033 et Metro Last Light en Redux, qui sont encore de très bons jeux. Hein. Donc,
Donc, à voir. Et pour dire, bon, je pourrais parler des autres jeux, mais Anthem, bien sûr, moi étant, comme vous le savez, un grand fan de Destiny, c'est un jeu que j'attends...
Et tu as raison.
N'est-ce pas, que j'attends beaucoup, que j'attends avec grande curiosité, on va dire, et puis le fait que ça soit une sorte de simulateur de Iron Man est évidemment un truc qui me plaît, puisque je suis aussi fan de Marvel, mais le truc, c'est que sur ces jeux-là, je crois qu'on a raison d'être, sur ce jeu-là en particulier, on a raison d'être dubitatif, parce qu'il repose sur deux choses sur lesquelles BioWare n'a pas jusqu'à maintenant prouvé son expertise. Ces jeux, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. D'une part, le moment-to-moment gameplay. Donc, est-ce que ce qu'on fait d'une seconde à l'autre, là, sur les 30 secondes de boucle de jeu, est-ce qu'ils sont agréables ? C'est-à-dire, quand on va sortir notre flingue ou les différents flingues et tirer sur les ennemis, est-ce que c'est sympa ? Est-ce que ça se passe bien ? Et il y a des jeux qui y arrivent bien, ce gameplay. Il y a des jeux qui arrivent moins bien. Et d'une manière générale, je crois qu'il n'est pas usurpé de dire que BioWare ne s'est pas illustré par son gameplay, et en particulier son gameplay de tir à la première ou troisième personne. Donc, on a peut-être des raisons d'être un petit peu dubitatif là-dessus. Et puis ensuite, l'autre chose, c'est le gameplay, la boucle de gameplay de loot, c'est-à-dire concrètement ce en quoi par quoi ça se traduit, c'est la motivation pour aller refaire le même contenu plusieurs fois. Parce que ces jeux as a service sont des jeux entre guillemets infinis dans lesquels il faut refaire le même contenu plein de fois. Et pour ça, il faut un système d'itémisation et de loot qui est ciselé. Et là encore, j'ai pas l'impression que BioWare ait vraiment beaucoup d'expérience dans ce domaine. Leur expertise étant évidemment un petit peu plus dans la narration et dans les jeux de rôle complexes. Donc là, ça a pas l'air d'être tout à fait ça, même s'il y a une partie solo qui présente comme relativement solide. Mais il n'empêche, la promesse de, d'un jeu as a service où on est dans des sortes de grosses armures comme ça, ça me parle vachement. Donc, je reste quand même assez enthousiaste à l'idée d'au moins essayer le jeu, quoi.
Peut-être pour nuancer juste sur un thème, s'il y a bien un truc qu'a bien fait le dernier Mass Effect, qui était globalement pas très bon, mais justement c'est la partie combat. Les combats d'Andromeda étaient vraiment hyper agréables, très péchus, il y avait un super feeling. Donc en fait pour le versant action d'Anthem, je suis plutôt rassuré. Et ce que m'ont dit des gens qui l'avaient essayé, pareil, ils m'ont dit que c'était vraiment très très nerveux, très agréable à prendre en main. Donc là-dessus, je leur fais confiance, quoi.
Ouais. Eh bien, écoute, on verra. C'est dans à peine plus d'un mois maintenant. Je crois même que les premiers accès anticipés, enfin, pas anticipés, mais si vous êtes abonné EA Premier, machin, vous ouais. aurez accès quelques jours avant.
Alors, sache que dans le jeu, il n'y a pas de loot box. Sache-le, hein, déjà.
Oui, non, chose. bien sûr. Mais,
mais ça, déjà que c'est un bon point.
Ça, c'est pas le truc le plus important. C'est le loot à la Diablo, à la World of Warcraft, à la Destiny. C'est les trucs où on tue les boss. En fait, la loot box, c'est marrant parce que les boss, c'est un petit peu des loot box. En fait, tu y vas, tu le tues. Ah bon. Et tu espères que tu vas avoir l'objet que tu voulais de ton boss. L'avantage, c'est qu'on ne paye pas par boss. Encore que, on ne sait pas. Hein. Ça se trouve, ils ont un moyen de monétisation intéressant.
Il y a Electronic Arts derrière, attention.
C'est ça. En mars, qu'est-ce qu'on a ? On a Devil May Cry 5 le 8 mars. Le 15, on a Tom Clancy's The Division 2. Donc, les jeux à ce service, fans de jeux à ce service, vous allez être servis entre Anthem et The Division 2. Sekiro le 22, Sekiro Shadows Die Twice, le jeu de From
jeu
Software. Je pense même, pour certains, c'est déjà le jeu de l'année. Et le 29, on a Yoshi's Crafted World sur Switch. Messieurs, on redonne la parole à Aymeric, du coup. Quel est ton jeu le plus...
Je suis déjà très déçu parce que tu as oublié Dead or Alive 6 quand même, qui est le jeu...
Ah oui, je ne l'ai pas mis, c'est vrai. Mais il n'a pas été décalé ? Je crois qu'il a été décalé.
Ah, il a été décalé ? Ah bah écoute, je n'étais pas au courant.
Bon, en tout cas, peut-être, je vais vérifier, vas-y. Dis-moi.
À mon avis, c'est le jeu le plus en forme du mois, mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors ensuite, moi je suis très très chaud sur Sekiro, évidemment, mais je te laisserai, je vais te laisser la parole là-dessus.
Oh, tu peux y aller.
Parce que je sais qu'on en a déjà parlé et que tu vas kiffer. Non, alors bon... Évidemment, Sekiro, mais juste après, juste derrière The Division 2, parce que moi, j'ai beaucoup aimé le 1. Mmh. Et c'est typiquement des jeux où vraiment, ça se joue entre potes de manière régulière, en fait, parce que tu as des jeux comme ça où tu peux rencontrer des joueurs et jouer à la volée avec eux. Pour le coup, The Division, c'était vraiment, en tout cas le premier, des jeux où tu revenais jouer avec tes potes tous les soirs, hein, tu faisais tes missions à 4, et c'était vraiment super sympa. Et j'avais beaucoup aimé l'univers, en fait. Je dis pas que la narration était merveilleuse, mais l'univers m'avait beaucoup plu dans le premier, donc je suis vraiment très, très impatient sur The Division 2.
D'accord, oui, c'est vrai que The Division 2 avait séduit beaucoup de gens et il s'était amélioré surtout beaucoup avec le temps.
Clairement.
Donc, il y a beaucoup de gens qui... J'ai vérifié, effectivement, t'as raison, c'est le 1er mars, c'était dans la voilà. 6. Donc,
je suis super déçu, je te le dis.
J.K.
Yes, pardon.
Excuse-moi, je t'interromps.
Non, j'avais coupé mon micro. Non, mais le mars, c'est un très gros mois quand tu vois le line-up. Pareil, on se répète, hein, mais Sekiro, c'est... En fait, le truc, c'est que les trois jeux que j'attends le plus cette année sortent dans le premier trimestre. Resident Evil, Metro, Sekiro, quoi. Les trucs, voilà. Déjà, mon année est faite, quoi. Bon, après, j'espère qu'on sera pas déçus. Attends, excuse-moi, je me remets sur la liste que j'ai perdu.
The Division 2 et Devil May Cry 5 aussi.
Ouais, alors DMC, Devil May Cry, je sais pas. J'y avais joué à la Gamescom et... J'ai trouvé ça cool. Ouais. Enfin, j'aime bien la série, mais vraiment, j'avais l'impression de rejouer à un jeu d'il y a 15 ans, mais pas forcément. C'est pas forcément un compliment, quoi. Je sais pas. Il y avait un truc qui me gêne un petit peu.
En vrai, ça sent le très bon jeu, sauf que on connaît déjà tout, quoi.
C'est ça
le truc. Donc du coup, tout le monde s'en fout un peu, en vrai. Voilà.
Ouais,
en
gros, c'est ça.
Mais ça sent le très bon DMC.
Et ce qui est super étonnant, c'est que on parlait de Resident Evil avant, qui est un remake, mais qui m'a l'air pour moi beaucoup plus frais et nouveau que ce Devil May Cry 5, qui a l'air vraiment de reprendre exactement. Alors que DMC, celui le précédent, qui n'était pas développé par Capcom, avait le mérite d'explorer d'autres voies et de faire d'autres chose. Bref, voilà. Ouais. Et The Division, pareil, curieux, plus que très impatient, parce que le premier, je l'ai bien aimé, mais sans plus. Et celui-là a l'air d'être à peu près la même chose, mais en plus varié, en un peu mieux, donc ça me convient très bien. Mais ouais, bon, moi, Barre, c'est violent au niveau sortie, quoi. Ça commence déjà, quoi.
C'est sûr, ouais. Bon, Dead or Alive, moi, c'est pas ma série de jeux de combat préférée. Donc,
c'était juste pour la vanne.
Oui, oui, non, je sais, mais t'as raison. Sinon, The Division 2, moi, je dirais, j'ai un problème avec The Division, c'est que autant tirer, c'est ce que disait tout le monde à la sortie du premier, autant tirer dans des aliens ou des robots ou des trucs comme ça, 60 000 balles pendant 10 minutes pour les faire tomber, ça me va. Autant The Division tirer le même temps et le même nombre de balles dans un mec ou une nana, enfin une personne, un humain, même s'il a des armures, machin, bah, ça me paraît, ça passe moins. Donc, j'ai ce petit.
Parce que tu l'as pas fait sur Destiny 2. Ah ouais.
Mais non,
ah
mais ouais. C'est ça. Destiny, c'est des aliens. Tu vois, c'est des sortes de trucs, tu sais pas. Ça se trouve, ouais, les balles, tu sais elles pas, sont. Ouais. Oui, non, tu sais pas. Alors ouais, que là. Mais bon, donc on verra quand même Destiny. J'espère que je serai trop happé par Anthem pour avoir le temps de jouer à Destiny, mais sinon, on verra. Et puis sinon, Sekiro et Devil May Cry, c'est un petit peu la même histoire pour moi. C'est des séries dans lesquelles j'ai jamais vraiment pris le temps ou réussi à m'investir. Et Sekiro, je parle des Souls, bien sûr, et même Bloodborne. Oui, voilà. Ça m'a pas attrapé, alors que Sekiro est censé être un petit peu plus orienté à action, même s'il y a certains éléments qui sont peut-être similaires à ce qu'on trouve dans les Bloodborne et les Souls. Donc peut-être que Sekiro me convaincra, me permettra de. C'est toujours ce dont je parle quand je parle de ces jeux dans lesquels je rentre pas, c'est le fait que je suis un petit peu triste de ne pas ressentir le type de plaisir que ceux qui apprécient ces jeux ont. C'est la même chose avec les Pokémon, la même chose avec plein de jeux que je dans lesquels je rentre pas. Et donc là, j'espère que Sekiro peut-être, enfin j'espère, je me demande si Sekiro réussira à me procurer, à me rendre accessible ce type de gameplay, type de jeu.
Pour que les gens comprennent bien, je pense que tu parles de l'aspect infiltration et l'aspect un peu Tenchu de Sekiro, c'est ça que tu veux dire, je pense.
Non, pas vraiment. Tenchu, j'y avais joué à l'époque. Je sais même pas à quel point ça sera infiltration. Sekiro, c'est plutôt l'aspect mécanique rigoureux, tu sais, de From Software voilà. Qu'ils ont depuis les Souls. Et c'est cet aspect-là. Et justement, peut-être que l'aspect infiltration, un petit peu plus action, un petit peu moins punitif, comme ça a l'air d'être le cas, on peut ressusciter, on peut, etc. Tout à fait. Me permettra de rendre ce truc plus accessible, comme un petit peu, alors ça, c'est pas du tout la même chose, mais un petit peu de la même manière que Céleste, meilleur jeu de l'année dernière, évidemment, tout le monde le sait, m'a rendu accessible le plaisir des plateformeurs très difficiles. Donc bon, on verra. Okay, et Devil May Cry, c'est un petit peu la même chose.
Sur Sekiro, le truc, c'est qu'il y a l'air d'y avoir quand même beaucoup de déplacements aériens, etc. Moi, c'est un truc que je trouve qui manque beaucoup dans les Dark Souls et dans
Bloodborne. Ouais, on est plus mobile, plus fluide, quoi.
Voilà, t'es tout le temps grounded au sol sur ces jeux-là. Là, t'as un aspect vachement plus aérien qui risque effectivement d'aérer un petit peu le flow du jeu, quoi.
Ouais. Tout à fait.
Après, ça s'annonce quand même assez rude hein, en termes de difficulté. Les combats, les combats sont parce qu'en gros, il y a Dark Souls qui a des combats assez lourds en termes de vitesse. T'as Bloodborne et là, vraiment, c'est le niveau au-dessus en termes de vitesse. Par contre, de ce que j'en ai vu, ouais, ça va quand même être assez chaud. Mais peut-être moins décourageant, j'espère, en tout cas. Enfin, j'espère. Tant qu'à faire, quitte à ouvrir la série à un autre public, peut-être un peu moins décourageant que les Souls, quoi.
C'est ce que j'espère aussi, ouais. Et donc Devil May Cry, c'est juste que je suis jamais rentré dans un Devil May Cry vraiment, j'ai toujours joué un petit peu et puis là peut-être que ça sera l'occasion. Bon, parlons d'avril, Mortal Kombat 11 le 23, le 26 il y a Days Gone et en avril à un moment Dauntless et Super Meat Boy Forever. Je rappelle que Dauntless est cette sorte de Monster Hunter très arcadifié où on joue à plusieurs pour tuer les monstres. C'est une version vraiment arcade de Monster Hunter, il y a beaucoup moins de profondeur roleplay, role-playing game plutôt, RPG, d'après ce que je comprends, hein, je l'ai pas beaucoup vu, mais vraiment cette mécanique de tuer les monstres, chasser les monstres et tuer les monstres ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Tous les jeux, hein, je veux dire.
D'accord, ok, moi je suis plutôt sur Days Gone, à vrai dire, par curiosité, même si on sent que c'est un jeu qui a peut-être moins d'ambition que The Last of Us 2, mais qui aimerait faire un peu de Last of Us 2, donc du coup je suis assez curieux, j'avoue, sur ce titre, surtout que la première démo m'avait bien marqué, mais pour autant tous les gens qui ont pu y toucher depuis m'ont dit que c'était sympa, mais que ça ne cassait pas la baraque. Je suis assez surpris que tu ne parles pas de Rage 2, j'ai quand même,
je veux dire, Rage 2 est prévu
avec une DA incroyable.
Pour le 14 mai, si je ne m'abuse.
Ah, d'accord, ok.
C'est
bon,
pour
bah,
ça.
Très bien. Bon, bah, d'accord. Dans ce cas-là, on va attendre un peu. Mais oui, donc moi, ce serait plutôt Death Gone, Mortal Kombat, évidemment, parce que j'aime les jeux de fight. Mais je pense que ce sera sans surprise, ce mois-là.
Ouais,
voilà.
Je crois aussi. Ouais. JK ?
Ouais, pareil, Death Gone, après je me dis que Sony soigne quand même pas mal ses exclus. Alors je pense que, bon, globalement, on va sans doute avoir un bon jeu qui va être, mais pas inoubliable. Mais regarde, par exemple, souvenez-vous de Spider-Man, personne ne l'attendait vraiment, et ça s'est avéré être une méga surprise.
Moi, c'est, voilà. C'est le jeu de l'année dernière pour moi.
Donc, ouais, voilà, tu vois, bon, après, je pense que Death Gone sera pas à ce niveau-là, mais bon, on verra. Par contre, moi, c'est Super Meat Boy que j'attends beaucoup, même si l'orientation un peu runner de cet épisode-là me fait un peu peur. Mais voilà, en tant que, enfin, j'aime beaucoup, même le premier Super Meat Boy qui a été vraiment celui qui a lancé la vague de jeu indé il y a bientôt 10 ans maintenant déjà, donc je suis quand même très curieux de jouer à Super Meat Boy Forever.
Bah moi je suis un petit peu sur la ligne d'Emeric, c'est Days Gone, avec effectivement cette caveat, cette petite remarque que c'est un jeu qui a priori me parlera à moi, parce que c'est le genre de jeu que j'aime bien. Donc j'imagine bien que ça va pas être un jeu qui va révolutionner le monde du jeu vidéo, mais
ça
peut-être, ouais, c'est ça. Mais peut-être un jeu qui moi me plaira, parce que, enfin, c'est un jeu qui va plaire aux gens qui aiment ce type de jeu. Il va pas transcender son genre, quoi. A priori, d'après tout ce qu'on a vu. Ensuite, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais comme son nom l'indique, une surprise, bah ça serait surprenant. Donc voilà, on l'attend avec circonspection, mais quand même. Bon, je vais faire la suite des jeux qui ont une date tous ensemble, la suite des jeux avec les films, attention, parce qu'on a donc en mai, le 14 mai, Rage 2, qui rejoint dans le post-apocalyptique néon le Far Cry New Dawn qui sera sorti quelques mois avant.
Post-apocalyptique néon.
C'est ça, non mais c'est vraiment ça, hein. On est néon fluo. Pokémon Detective Movie, le Detective Pikachu, pardon, Movie, qui sortira le 10 mai. Crash Team Racing en juin, le 21, en juillet on va avoir l'Atari VCS normalement, la console, le 27 août on aura Shenmue 3, voilà. Et en novembre on aura Sonic the Hedgehog Movie. Parmi tous ces jeux et films, est-ce qu'il y a des choses que vous attendez, ou même console d'ailleurs, on aura aussi le 3 auquel la console de Microsoft, la nouvelle, risque d'être annoncée, la Xbox 2. Qu'est-ce qui... Bon, évidemment, ça, c'est un autre sujet tout encore.
Mais là, si on parle...
Si on parle là-dedans, on n'a pas fini.
Pas rendu, ouais. Bah, moi, écoute, c'est relativement calme. Rage 2, j'y jouerai parce que j'aime les FPS et que l'univers m'intéresse. Après, encore une fois, le côté post-apo néon, ça me fatigue un peu, quoi. Il y a eu Fallout, bon, Fallout 76, c'est encore autre chose, mais en fait, moi, j'aime bien les jeux post-apo qui sont vraiment durs et glauques. Enfin, c'est pour ça que j'attends beaucoup Metro Exodus, quoi. Donc, Rage 2, après, le feeling est super cool. Pareil, j'y ai un petit peu joué et c'est efficace, hein, c'est développé. C'est que développé par id et Avalanche, donc voilà, à la fois le côté FPS, ils savent faire des FPS, et le côté monde ouvert qui a l'air plutôt solide.
Le premier du nom était top, hein.
Ouais, c'est ça.
Rage, j'ai un super souvenir de jeu.
Rage 1 était bien. Après, dans la liste, là, je regarde, il n'y a pas grand-chose. Hein. L'Atari VCS, en tant qu'amateur de ce genre de d'arnaque, j'exagère un peu, mais je suis... Non, mais j'aime bien quand, à chaque fois qu'il y a un constructeur qui essaie de faire revenir une marque antédiluvienne, ça m'intéresse, parce que j'aime voir comment c'est traité. Après, je me fais peu d'illusions sur les qualités de ce truc, même si on n'en sait pour le moment pas grand chose, donc voilà. Et Shenmue 3, même s'il sort fin août et que le jeu est réussi, ça me passe au-dessus, parce que j'ai absolument pas joué aux deux premiers.
Oui.
Donc, voilà.
C'est un énorme si, hein. Alors, si le jeu sort fin août, c'est un gros si, et que le jeu est réussi, c'est un énorme si.
Ça
s'appelle un double si, ouais.
Tu m'étonnes,
d'accord, Emeric.
Moi, de mon côté, c'est pas vraiment ce que tu as cité. WoW Classic, c'est cette année là, non?
Oui, mais on n'a pas de date. Tous les trucs qui n'ont pas vraiment de date, qui n'ont pas, tu vois, j'ai pas mentionné. C'est vrai que j'ai même pas mis WoW Classic, mais
parce que ça, franchement, ça m'intéresse juste pour le souvenir là, pour le coup, plus qu'autre chose. Il y a Luigi Mansion 3 qui doit arriver aussi sur Switch.
On a, si je ne m'abuse, je ne sais pas s'il est dans la liste que j'ai en dessous, dans les trucs où il n'y a pas de date, où il n'y a pas de... dans cette liste, on va voir juste après. Pour le moment, faisons ce qui a une date jusqu'à la fin de l'année, et puis on verra la liste de tous les trucs qui n'ont pas de date, il y en a beaucoup.
Ok, très bien. Bah écoute, alors Shenmue 3 dans ce cas-là, simplement parce que le 1 et le 2 que j'ai refait récemment sont toujours aussi bons malgré la vieillerie du gameplay et que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec tout le pognon qu'ils ont reçu. Donc voilà, évidemment, ça reste des doubles suppositions, voire triple ou quadruple, mais oui, ce serait le gros truc que moi j'attends. Et j'avoue être très curieux sur les deux films dont tu as parlé, le Sonic et le Détective Pikachu, juste pour voir en fait si ça peut passer ou pas. Je sens qu'ils ont envie de faire l'effort de faire quelque chose de pseudo, entre guillemets, pseudo intégré à la réalité. Et je veux juste, je suis très curieux de voir si ça marche. J'ai un énorme doute. Et voilà, juste pour le sport, je veux voir ça.
Ouais, moi, les quelques images qu'on a vues, les posters qu'on a vus de Sonic ne laissent pas présager du meilleur.
Non, du tout.
Par contre, le trailer de Détective Pikachu, moi, j'ai trouvé que les gens étaient assez durs avec. Je l'ai trouvé assez marrant, assez sympa, sachant que j'ai pas du tout d'affect avec la série des jeux Pokémon, ni même le dessin animé, qui est très populaire chez certains. Donc, évidemment, moi, j'y viens sans aucun bagage, sans aucune connaissance du truc. Donc, je le vois de manière un petit peu extérieure, un petit peu fraîche. Mais moi, ça m'a vraiment... J'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça marrant. J'irai voir le film avec plaisir, je pense.
Tu es la cible, tu es un enfant. Tu es la cible.
C'est ça, oui. Bon, il sera encore un peu jeune, je pense, pour aller voir ça. Mais...
Alors que t'imagines le ou les gamins de JK, je ne sais pas, eux, ils vont voir du Metro Exodus, tu vois, c'est pas pareil.
C'est ça.
Ah bah le mien, je vais le mettre devant Stalker. Là, il a 2 ans et demi.
Il
va mater du Tarkovsky. Exactement. Et compagnie, quoi.
Fais lui lire les bouquins.
Ouais. Bon, donc passons maintenant aux jeux qui n'ont pas de date précise, qui ont parfois des trimestres dans lesquels ils ont été annoncés. Alors là, on a beaucoup de choses quand même. Je vais commencer pour vous dire les quelques jeux que j'ai notés, mais on va pas pouvoir les décrire en long et en large, parce qu'il y en a beaucoup. Bloodstained Ritual of the Night, dont je suis Kickstarter, c'est le Metroidvania de Igarashi qui va enfin sortir normalement cette année. Bon, moi je suis juste fan de Castlevania. Donc
désolé,
voilà.
Surtout. Hein, mais...
Bah écoute, non, pourquoi pas, ça va être un truc,
ça sent pas très très bon.
Ouais, hein, peut-être pas très très bon, ok. Bon. Cyberpunk 2077, s'il sort en 2019, ouais, il est censé, on n'a même pas besoin d'expliquer pourquoi, hein, mais forcément. Gears 5, qui selon le trailer qu'on avait vu l'année dernière, avait l'air d'être une nouvelle approche au moins narrative de Gears of War, qui me semblait un petit peu différente, un petit peu intéressante, un petit peu plus adulte, alors ça va pas faire autant que le reboot de God of War, j'imagine, mais il n'empêche, je suis intrigué de voir ce qu'il pourrait faire avec cette série vénérable et un ton un petit peu moins dude bro, quoi. In the Valley of Gods de Campo Santo, même si j'étais pas super fan de Firewatch, jeu très narratif avec un style graphique vraiment innovant pour l'époque, je suis quand même curieux de voir ce que donnerait In the Valley of Gods.
Là-dessus.
Ouais, je pense que je suis pas le seul.
Ils ont été rachetés par Valve, n'oublions pas, donc ça va être le premier jeu de... Ça va être le premier jeu solo de Valve, en fait, depuis X années.
C'est vrai.
Faut d'un côté, quelque part.
Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, qui est exclusif à la Switch, évidemment fan de Marvel, et puis en plus Ultimate Alliance c'était un jeu qui était considéré comme un bon jeu par beaucoup de gens, donc curieux de voir ça. Mario Kart Tour, on parlera un petit peu plus de jeux mobiles dans un instant. Samurai Showdown, jeu de combat, je pense que Emric me rejoindra là-dessus, hein.
Évidemment.
Wolfenstein Youngblood, dont je suis évidemment curieux, c'est un jeu qui peut se jouer entièrement en coop, où on joue les deux filles de Blazkowicz dans une Europe nazie des années 80, je crois que c'est en Europe, ou en tout cas dans le monde des années... Là, on passe à la décennie des 80, donc ouais. Peut-être encore du fluo et du néon.
Mais, par contre, je suis chaud, des nazis des années 80, c'est bon, quoi.
Très bien.
C'est bon.
Et oui, donc on joue les jumelles de Blazkowicz.
De Basco, ouais.
Et bien sûr, Star Wars Jedi Fallen Order, s'il sort cette année,
j'y crois peu. Hein.
On y croit peu, on n'a rien vu du tout, mais on sait que c'est développé par Respawn, développeur de Titanfall, qui est un jeu, surtout le 2, dans sa version solo, enfin dans sa campagne solo, qui est très sous-estimé, alors qu'il est vraiment très très bon. Et donc, je suis très curieux, évidemment, de voir ce que pourrait faire Respawn, les anciens de Infinity Ward, Call of Duty, à sa plus grande époque. l'époque avec la licence Star Wars. Là, je crois que évidemment, c'est un jeu qui est attendu par beaucoup de monde. Un mot pour signaler que Doom Eternal n'a pas été confirmé pour 2019. C'est pour ça qu'il n'est pas dans ma liste. Mm. Donc voilà, pour la liste, en gros, il y a quand même du beau
ouais,
du bolin.
Il y a du jour. Hein. Mmh. Après, je serais quand même pas surpris que Doom Eternal sorte cette année parce que
je pense
cette année,
aussi,
Bethesda,
oui.
Ils n'ont pas grand chose là. Ça a pas été, en 2018, ça a pas été une très bonne année pour eux hein, avec Fallout et, qui s'est planté. Donc, ils ont intérêt à sortir quelque chose et clairement, dans les valeurs sûres, chez Bethesda, Doom Eternal, ça se pose là.
Il mmh. bon, y a Wolfenstein aussi, mais il est moins. Et, c'est moins
ouais,
bon.
Mais c'est un spin-off, c'est un stand-alone qu'on appelle. C'est une sorte de. C'est pas une suite, quoi. C'est plus une sorte de truc en attendant. Voilà, quoi.
Ouais,
Ori, t'as pas cité, je le vois dans la liste, mais Ori and the Will of Wisp, moi je l'attends beaucoup parce que le premier est super, le 2, pour, enfin, de ce que j'en ai vu et essayé, ça m'a vraiment énormément charmé. Donc, très très hâte de jouer à celui-là. Donc, en tout cas, en termes de jeu de plateforme, vaguement Metroidvania, même complètement Metroidvania, c'est un des jeux que j'attends le plus, quoi.
Ok, je vois la liste, il y en a tellement que je pourrais mentionner
bah oui.
encore, mais
ah oui.
vas-y, toi, c'est lesquels
bah moi, donc, je le disais tout à l'heure, un petit peu en avance, mais c'est Luigi's Mansion 3, alors parce que je trouve que cette licence est particulièrement sous-estimée aussi, on utilisait ce terme-là tout à l'heure. Vraiment, Luigi's Mansion, c'est des jeux qui sont accessibles pour tout le monde, en fait. C'est super bien pensé dans les mécaniques dans lesquelles tu évolues. En gros, tu te balades avec Luigi, avec un aspirateur, et t'aspires des fantômes dans une maison hantée, pour résumer, c'est ça. Et il y a des casse-têtes très bien pensés. C'est vraiment une très très bonne série, d'ailleurs je crois que le 1 ou le 2 ont dû ressortir très récemment et franchement je les recommande à tout le monde, donc je suis très très impatient sur Luigi's Mansion 3 avec une DA en plus très Nintendo et une ambiance assez marrante, un peu flippante, décalée, moi j'aime beaucoup, donc ça c'est vraiment un des trucs que j'attends le plus. Il y a Skull and Bones que j'attends aussi pas mal parce que bah, les questions se posent après le jeu de pirates.
Oui, ah oui, après, évidemment. Non, bien sûr, oui. Après, mais zut, le jeu de Rare. Ah.
Mon Dieu, au secours.
Jika,
on connaît qu'un qui est dans le Game
Pass. Sea of Thieves.
Voilà, merci, voilà.
Voilà. Après Sea of Thieves, qui est une très très bonne intention, mais comme beaucoup trop de jeux ces dernières années, a tendance à sortir trop tôt et à proposer du contenu trop tard. Après, en plus, donc il se prend finalement des cartons parce que la durée de vie d'un jeu est plus vraiment si longue que les développeurs le voudraient. Donc je suis très très impatient de voir ça, la Skull and Bones. Et puis voilà, c'est à peu près tout de mon côté. Mais je suis curieux de t'entendre parler des jeux mobiles parce que moi je suis un peu tombé dedans. Donc, si tu veux y aller. Je suis chaud là-dessus.
Oui, bah on va pouvoir en parler. Alors encore une fois, il y a plein de jeux qu'on n'a pas mentionnés, mais genre The Humankind Odyssey qui a l'air intéressant. Il y a un nouveau Fire Emblem. Il y a Indivisible qui sort aussi normalement cette année. Psychonauts 2, Sable qui a un style graphique hyper intéressant. Wargroove qui va en plaire à certains. Wasteland 3, il y a un nouveau Is. Enfin, il y a plein de trucs qui sortent. Je suis hyper curieux de voir ce qui va me surprendre cette année parce qu'il y a beaucoup de jeux. Il y en a peut-être moins que l'année dernière dont on sait qu'ils vont sortir du lot, encore que, c'est discutable, mais il y a plein de trucs qui pourraient être vraiment intrigants. Mais bon, passons à cette petite partie sur les jeux mobiles que je voulais...
Si je puis me permettre, juste un truc, je pense. Alors, je pense que 2018 a été une année exceptionnelle, comme 2017, 2016, etc., mais ça n'a fait que monter. Je pense que 2019, il va y avoir des creux, en fait. À mon avis, en fait, le début de l'année va être canon, après il va y avoir un tout petit creux, il y aura l'E3, et après il y aura un autre petit creux, et je pense que la fin d'année sera exceptionnelle. Mais
c'est
en
possible,
vrai, je pense que ce sera pas une année en continu comme ça l'a été pour 2018.
C'est peut-être, c'est vrai que 2017-2018 étaient... non, mais je crois que t'as raison. 2017 et 2018 étaient des années incroyables. Je crois qu'on sera plus du calibre de 2016, là, qui était quand même une
exactement.
Très très bonne année aussi, ouais.
Ouais, mais le truc, c'est qu'en termes de AAA, on arrive sur la fin de vie des consoles, des consoles actuelles. Donc, on va être sur la classique année de transition où, en gros, là, les consoles, en tout cas, les gros constructeurs et AAA, ils ont un peu tout donné de ce qu'ils pouvaient sur cette génération. Et ils préparent la suite, en fait. Donc, ils préparent les gros jeux dans 2 ou 3 ans, quoi. Donc voilà, il y aura des bonnes surprises, notamment du côté des jeux indés, comme souvent, en fait. Il y a plein de jeux qu'on n'attend pas et qui vont s'avérer être excellents. Qui aurait pu penser, il y a un an, que Céleste allait le jeu de l'année de pas mal de gens ou celui de Tika, tu vois. Donc voilà quoi.
Il y a un truc qui est intéressant sur cette année de transition parce que traditionnellement, bon, il y a encore des jeux qui arrivent notamment sur PlayStation 4, la Xbox One c'est un petit peu moins le cas, mais il y a des jeux comme The Last of Us, le jeu au Japon, ah mon dieu, mais ma mémoire.
Oui, oui, tout à fait, le jeu de samouraï au Japon.
Oui, oui, oh là là, moi je l'ai aussi, mais...
Ah mon dieu.
La honte. Voilà. Bon, la honte, c'est pas oui, grave, bon. Ça, qui est développé par Sucker Punch, les gars de...
Tout le monde sait de quoi on parle.
Mais bon, bref, on voit
ah
bien.
Mon dieu, c'est terrible, bon, on va s'en souvenir dans un instant. Et donc, il y a ces jeux-là qui vont sortir sur PlayStation 4. Traditionnellement, c'est ce qui s'était passé pour The Last of Us 1. Il avait ressorti sur PlayStation... Enfin, il était sorti à la fin de la vie de la PlayStation 3 et il était sorti, genre, l'année d'après ou l'année suivante, sur PlayStation 4 en version remasterisée. Là, il est possible qu'il garde le truc aussi longtemps que possible pour les jeux de la fin de la génération. Je ne sais pas s'ils pourront les ressortir sur la génération d'après, parce que pour moi, la compatibilité avec la génération d'avant, donc dans le cas de la Xbox, je pense que c'est quasiment acquis, dans le cas de la PlayStation, ça serait quand même surprenant que ça ne soit pas le cas. Et du coup, quel intérêt de sortir une version remasterisée ? Peut-être qu'ils vont sortir quand même une version remasterisée avec de meilleures textures, de meilleurs tout, une meilleure modélisation, etc. Mais ça sera un petit peu plus difficile à concevoir, à marketer, on va dire, s'il y a cette rétrocompatibilité. Donc, bref, c'est intéressant.
Ghost of Tsushima, je l'ai.
Merci, ouais, voilà. Merci, Emeric. Bon, parlons un tout petit peu de jeux mobiles. Je voulais mentionner cette catégorie parce que on a eu, je crois, plusieurs faux départs dans le jeu mobile pour Core Gamer. Et notamment en 2016, quand Mario Run est sorti, moi j'avais vraiment l'impression, je me disais, Nintendo s'y met avec beaucoup de sérieux, peut-être qu'on va enfin avoir la réponse à cette question qui se pose depuis le début de la montée en puissance de la plateforme mobile, qui est-ce qu'on peut créer des jeux mobiles qui soient attrayants pour les core gamers ? Alors oui, il peut y avoir des jeux mobiles qui sont attrayants pour core gamers, mais ça reste des jeux mobiles entre guillemets, les jeux qui sont intéressants pour les deux catégories de joueurs sont quand même relativement rares et surtout il y a peu de core gamers qui s'intéressent aux jeux mobiles. Et là, on va avoir en 2019 normalement des jeux comme Mario Kart Tour, mais pas seulement, on a Diablo Immortal, le mal-aimé qui va quand même arriver et qui pourrait être intéressant. On a Elder Scrolls Blade qui va arriver aussi. Donc, ça commence à faire pas mal de gros éditeurs qui s'intéressent à la plateforme mobile avec des jeux qui sont a priori des équivalents ou en tout cas des philosophiquement comparables à des jeux pour core gamers. On a un nouveau jeu Alien, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est une version de Alien Isolation qui arrive pour les smartphones. On a le jeu des développeurs de Hearthstone, Ben Brode notamment, Yong Wu, Hamilton Chou, etc., qui ont un partenariat avec Marvel et un gros investissement de... alors, je ne sais plus si c'est Tencent ou NetEase.
C'est Tencent, il me semble.
C'est Tencent, voilà, qui a investi 30 millions de dollars dans la boîte pour faire ce jeu, et donc qui va a priori être un jeu mobile, on l'imagine, peut-être même un jeu de cartes avec un thème Marvel. Moi, j'aimerais bien voir ce qu'ils peuvent faire d'autre qu'un jeu de cartes.
Ce serait pas étonnant qu'ils fassent ça.
Voilà, c'est peut-être...
Il y a un gros potentiel là-dessus.
Mais donc, on a quand même un certain nombre de gros éditeurs qui s'intéressent au mobile de manière vraiment sérieuse, et je me demande si on va pas enfin avoir la réponse. Pour moi, et je vais garder la parole encore deux secondes, pour moi, le gros problème des jeux mobiles, c'est vraiment une question d'interface utilisation, de contrôle. On se souvient qu'il fut une certaine époque où les jeux consoles, ça pouvait pas être des FPS parce que simplement les manettes étaient considérées comme tellement inférieures au clavier souris que c'était juste pas utilisable, jusqu'à ce que Bungie arrive avec Halo et Bungie a montré c'est possible de faire un FPS à la manette. Ok, ça ne va pas être aussi précis qu'à la souris, mais c'est complètement faisable. Et donc, à partir de là, les FPS ont été crédibles sur console. Et on sait que depuis, il y en a eu beaucoup, 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 et que c'est un des genres les plus populaires et les plus lucratifs. Et là, il y a un vrai problème avec la plateforme mobile, c'est que les contrôles ne sont pas satisfaisants pour des gamers traditionnels, c'est-à-dire console PC. Et je me demande si on ne va pas avoir, avec enfin cet intérêt sérieux des gros éditeurs pour la plateforme mobile, une réponse à cette question. Est-ce qu'il est possible d'avoir des bons contrôles, un bon moyen de manipuler le jeu sur mobile aussi pour notre population ? Peut-être que la réponse sera non, comme ça a été le cas. Enfin, le problème de Mario One était peut-être un problème de qualité de jeu ou d'interaction ou de type de jeu, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner, et peut-être qu'on a la réponse cette année ou l'année prochaine, que ça va commencer cette année, quoi.
Moi, je suis très, très, très chaud sur le sujet, parce que d'abord, depuis, ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu, et j'ai toujours craché sur les jeux mobiles comme tout bon journaliste sérieux qui se respecte, de jeux vidéo. Et puis maintenant, bah, je me suis fait avoir, il y a des trucs qui fonctionnent vraiment très, très bien. Et je suis content parce que dans tous les jeux que tu as cités, il n'y en a aucun que moi je peux citer actuellement et auquel je joue, et qui sont très, très bons. Alors, je pense d'abord le fer de lance, c'est Dragon Ball Legends. Alors, au-delà de la folie Dragon Ball, c'est un jeu de baston, en fait. Donc, un jeu de combat sur Dragon Ball qui a un gameplay hyper pointu, qui est hyper bien foutu, qui est un jeu très beau en plus de surcroît, et qui fonctionne vraiment très très bien. Et il y a du PVP en fait. Et je me permets via le PVP d'expliquer qu'il y a différentes manières d'aborder le jeu mobile aussi. Il y a soit le combat entre joueurs, il y a le farming en fait, et il y a l'option éventuelle du jeu en solo intéressant, qui est en train d'explorer le Alien Blackout, dont on cherchait le nom tout à l'heure, ouais. Qui est le prochain jeu mobile Alien. Et donc voilà, mais il y a d'autres jeux à citer qui sont très intéressants. Saint Seiya Cosmo Fantasy par exemple, qui est le jeu des Chevaliers Zodiac pour le farming en fait, purement. Pareil pour Dokkan Battle, qui est un jeu Dragon Ball qui fonctionne très très bien. Et je pensais aussi à Assassin's Creed Rebellion, qui est sorti très récemment chez nous, qui est un jeu un petit peu de, pas d'énigmes, mais de customisation de personnages à utiliser dans des missions. Et c'est très très bien fichu en fait. Et donc pour revenir à ton histoire de gameplay, je pense que jamais, au grand jamais, l'écran tactile ne permettra d'égaler une manette ou un clavier souris. Je pense que c'est pas ce que tu voulais dire, mais je veux dire, ça ne sera jamais satisfaisant pour le gamer traditionnel. Mais il y a aujourd'hui des jeux pour gamers traditionnels qui fonctionnent vraiment déjà très très bien, quoi. Vraiment.
Ouais, moi il y a quand même cette barrière qui reste présente à mon sens. C'est que, enfin, en même temps, on se pose la question, est-ce qu'on peut faire des jeux traditionnels sur mobile? Et il y a des gens qui vont me dire, non, mais c'est pas la peine. Si c'est un jeu qui est comparable, qui est l'équivalent de celui que j'ai sur ma console, eh ben, je vais jouer sur ma console. Mais on aurait pu dire aussi, bah, si c'est un jeu qui est équivalent à celui que j'ai sur mon PC, bah, je vais jouer sur mon PC. Pourquoi jouer sur la console? Et pourtant, il y a plein de gens qui jouent à Call of Duty sur console et qui sont pas des joueurs, entre guillemets, inférieurs. Enfin, oui, ils sont moins bons, évidemment. Mais je veux dire, il y a un truc intéressant, une question intéressante qui se pose sur la plateforme mobile, c'est est-ce que on pourrait avoir, parce que là tous les jeux dont tu as parlé, ils pourraient peut-être plaire aux joueurs traditionnels, mais le fait est qu'ils existent déjà et les joueurs traditionnels ne s'y intéressent pas énormément, pas en masse.
Alors, je peux te dire que Dragon Ball Legends, c'est pas vraiment le cas. Il y a une explosion de ce jeu qui est vraiment incroyable. Ah oui. Ouais, vraiment. Et ça vaut le coup de s'y pencher, ne serait-ce que de regarder un peu de gameplay du jeu pour comprendre. Mais c'est vraiment un jeu qui fonctionne très bien et qui ramasse un paquet de pognon, parce que le vrai cœur du truc, c'est ça. C'est que plus les gros éditeurs se rendent compte qu'il y a des petits éditeurs des petits développeurs qui font beaucoup de fric avec des petits jeux mobiles, plus ils vont s'y intéresser en fait. Donc c'est une masse aussi d'argent qui va rentrer, et donc il va y avoir de plus en plus de gros jeux sur ces plateformes mobiles avec des gameplays plus élaborés que toi t'attends. C'est obligatoire qu'on passe par là, quoi. C'est sûr. En fait,
c'est quoi les moyens de monétisation de ces jeux-là?
Alors en fait, en gros, l'idée, si tu veux, c'est qu'on t'attire avec un jeu gratuit. Donc tu arrives évidemment.
C'est traditionnel, mais c'est des loot box. Voilà. C'est quoi?
Et alors évidemment, c'est ça. En fait, c'est plutôt ce qu'on appelle des gachas, c'est-à-dire que tu vas jouer dans le jeu, tu vas récupérer une monnaie quelconque, ça peut être un plein de trucs. Et en fait, tu vas en avoir par exemple 1500 et tu peux lancer un tirage au hasard pour récupérer des super personnages tu vas avoir 5 super personnages sur 50 disponibles dans le tirage. Et tu lances comme ça, tu dépenses 500 de ta monnaie. Et tu tentes ta chance pour tomber sur ces bons personnages. Ouais. Donc en gros,
et bien sûr, tu peux acheter plus de cette monnaie en jeu avec
exactement,
de l'argent réel. Quoi.
Ouais, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a, il y a les fameux players classiques et les pay players, ceux qui n'ont pas peur de payer et auquel cas, qui sont soit avantagés ou pas. Ça dépend des jeux. En fait, il y a des jeux où c'est pas forcément avantageux pour affronter d'autres joueurs que de payer.
Ouais. Bah, peut-être que la question parallèle à celle que je pose de la question du gameplay et des contrôles sera aussi celle de la monétisation et de savoir, parce qu'il y a une telle allergie des joueurs traditionnels à ce type de modèle de monétisation, peut-être que pour convaincre ce public, il faudra que ces jeux passent par un modèle de monétisation différent de ceux qui sont traditionnellement populaires.
Tu as tout à totalement raison et je suis tout à fait d'accord avec toi. Néanmoins, on a aussi une nouvelle catégorie de joueurs qui a été élevée au mobile et à qui ça ne fait pas peur.
Mais moi, je parle de nous.
Oui, je comprends très bien. Et nous, si tu veux, le truc qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, une voix qui est, dont on ne se rend pas vraiment compte si on n'y joue pas vraiment à ces jeux, c'est qu'il y a des jeux qui permettent de ne pas forcément, tu n'as pas besoin de claquer d'argent, en fait. C'est le skill qui paye. Et Dragon Ball Legends en est un exemple parfait. C'est-à-dire que oui, tu peux payer et tu peux avoir des persos qui sont sur le papier beaucoup plus forts que ceux que les joueurs qui ne payent pas. Mais par contre, si tu as un meilleur gameplay et tu joues mieux que le joueur qui lui paye, tu gagnes. Et ça change la donne.
Voilà. Bon, bah écoutez, on aura quelques mois et quelques années, je pense, pour avoir ces réponses également.
Mais t'as raison, il y a un tournant qui arrive, je suis d'accord.
Un possible tournant, c'est vrai. On se rend compte qu'il y a tellement de jeux, d'éditeurs, entre guillemets, sérieux, des vrais, qui s'y intéressent, que peut-être... Bon, on verra. Et c'est vrai que... Bon, bref, il fut une époque où les joueurs PC étaient snobs et ne voulaient pas jouer sur console. Aujourd'hui, c'est juste deux modes de jeu différents. Peut-être que ça arrivera avec les mobiles aussi. Bon. Et d'ailleurs, Dragon Ball Legends a l'air très très beau. Hein. Je viens de regarder un petit peu, c'est pas mal.
Ah oui, mais si tu veux plus de précision, on pourra en reparler après. Mais vraiment, au-delà de la folie Dragon Ball, hein, soyons clairs, moi j'aime beaucoup la série, mais c'était pas ça. Le gameplay du jeu est excellent, vraiment excellent. C'est un des meilleurs jeux mobiles auxquels j'ai joué. Voilà.
À regarder, d'accord. Bon, parlons un petit peu d'Epic, Epic Games, dont on aurait pu parler. Alors, il y a quelqu'un dans les commentaires de l'épisode bilan de l'année dernière qui disait « Ah, je suis surpris que vous n'ayez pas parlé de Fortnite ». Et c'est vrai que techniquement, Fortnite Battle Royale était sorti en 2017, donc on ne l'a pas évoqué pour le bilan de 2018, mais il a pris tellement de place qu'on aurait pu, et on aurait pu parler de Epic dans son ensemble, qui a gagné, selon certaines estimations, 3 milliards de dollars, 3 milliards de dollars de profit, de bénéfices. Hein, on parle de 3 milliards, pas de revenus, évidemment. Et notre Oscar Le Maire national, d'ailleurs, avec lequel on a fait l'épisode spécial Miyamoto, qui était l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas encore écouté, allez y jeter un coup d'oreille. Franchement, ça vaut le coup. C'était le premier épisode de l'année et il était, on a couvert toute la carrière de Miyamoto chez Nintendo et le mystère qu'est ce personnage. Donc, vous pouvez aller écouter ça. Mais donc, Oscar Le Maire nous mettait dans le contexte de ces 3 milliards de dollars gagnés en 2018 par Epic, c'est en gros le triple de ce que gagnent des entreprises comme Activision ou Electronic Arts par an. C'est 9 fois le bénéfice de Square l'an dernier, qui était déjà un bénéfice record. 11 fois le bénéfice d'Ubisoft, qui était également un bénéfice record. Et pour conclure avec Capcom, qui est l'un des éditeurs historiques du jeu vidéo, avec des succès comme Street Fighter ou Resident Evil, eh bien, l'année dernière, Epic a réalisé 20 fois plus de bénéfices que
Capcom.
Que Capcom, oui. Et ils avaient réalisé l'année dernière le bénéfice le plus élevé de leur histoire. Donc, ils ont gagné 20 fois plus que Capcom, qui avait le meilleur bénéfice de l'histoire.
Tu es en train de me dire que les joueurs consoles, là, ou les joueurs PC, là, qui veulent pas claquer d'argent dans des jeux mobiles, ils veulent bien claquer d'argent dans des skins, et ça rapporte tant d'argent à Epic.
Ah, ça, c'est sûr,
mais... en train de me dire.
Bah, disons que Epic, enfin, Fortnite, est surtout un jeu mobile. C'est ça dont on se rend pas forcément compte, tu sais.
C'est vrai.
La majorité des joueurs, quelque chose comme 300 ou 350 millions sur les 400 millions ou plus de joueurs de Fortnite, sont sur mobile. Donc... oui et non.
C'est ce que je te disais. Il y a une jeune génération qui est élevée au jeu mobile et qui n'a pas peur de claquer. C'est évident, quoi.
Complètement, complètement. Alors, à ceci près que, même si moi j'ai quand même des choses à dire à propos du business model d'un jeu comme Fortnite Battle Royale, il est indéniable qu'il soit moins polémique que les business models à Lootbox. Donc,
tout à fait.
Ça, c'est à noter aussi. Mais donc, 3 milliards pour Epic, c'est quand même à faire remarquer. Tim Sweeney est passé, donc le président d'Epic est passé devant Gabe Newell dans la liste des milliardaires les plus riches du monde.
Ben
c'est
oui.
marrant. Epic, donc l'autre gros côté de Epic, c'est le lancement de son Game Store, qui à mon avis va avoir une grosse influence sur l'ensemble des App Store et des Game Store de l'histoire, enfin de l'histoire, de l'industrie aujourd'hui.
Steam peut trembler, hein, c'est sûr.
Bah, Steam, d'ailleurs, déjà, Epic a mis en place une politique de remboursement similaire à celle de Steam, donc ça, c'est pas mal. Ouais. On a vu que The Division 2 va être exclusif, pas exclusif, pardon, mais va arriver sur l'Epic Game Store et ne va pas être disponible sur Steam, donc ça, c'est quand même notable. Rappelons que le Epic Game Store donne 12% des bénéfices, enfin, du revenu du store, de la vente aux développeurs, pardon, donne 88% et ne garde que 12%, là où Steam, en gros, donne 70% et ne garde que 30%. C'est le même pourcentage dans tous les App Store. Et un truc que je n'avais pas remarqué il y a quelques semaines, c'est que l'Epic Game Store va arriver sur Android en 2019. Oui. Ce qui est énorme, énorme. Et je ne sais pas comment j'ai raté cette information. Peut-être que c'était au début, au début décembre que Tim Sweeney a donné cette interview à... Je crois que c'était... Je veux pas dire de bêtises. C'était Game Informer, c'est ça, comme l'a fait remarquer Game Cult. Et c'est énorme parce que ça veut dire qu'ils étendent leur influence et que ce modèle de partage de revenus va... à mon avis, devoir s'imposer, ou en tout cas va faire bouger les lignes pour les autres stores, partout. Ils vont être présents sur PC, sur Android, et donc même si ils ne réussissent pas à prendre une part de marché énorme, ça va forcer les autres stores à revoir leur politique, au moins pour les jeux, parce que évidemment, alors évidemment, ils ne peuvent pas être sur App Store chez Apple, parce que c'est...
Ça va être compliqué là, par contre.
Ouais, là, c'est pas possible, mais ça va pousser tout le monde à... pousser Google, Steam et d'autres à revoir la manière dont ils font les choses, je pense, et Epic est en train de devenir une force monumentale dans l'industrie, quoi.
Il y a une brèche, hein, dans le business, effectivement, des plateformes de jeux dématérialisées. Et Epic, bon, qui était le mieux placé pour ça, s'est carrément engouffré dans le truc. Et moi, je pense, met en danger les gros historiques, dont Steam. Bon, évidemment, ça va encore très bien pour Steam. Hein, mais je veux dire, ils vont les obliger à s'aligner. C'est obligatoire, en fait. Sinon, tout le monde va passer dessus, surtout avec la force de Fortnite et la majorité de joueurs qui est sur Fortnite. Donc, il n'y a pas de doute que là, il se passe quelque chose et que, à mon avis, cette année va être décisive pour le jeu des maths. C'est évident, je suis d'accord avec ça.
Ouais, c'est clair, c'est une année charnière. Et c'est vrai que c'est étonnant pour le moment. Valve, Steam, enfin, il est resté extrêmement silencieux par rapport à l'arrivée de Epic. Alors certes, c'est pas le premier store qui essaie de concurrencer Steam. Il y a eu GOG, il y a évidemment tous les Origin et compagnie. Mais eux, ils ont quand même ça, c'est la première fois. Je trouve ils essaient de bousculer le marché plus encore plus que les autres. Il y a aussi les jeux offerts, mine de rien. Là, ça fait ils ont commencé avec Subnautica. Là, il va y avoir
Subnautica. Quel grand jeu, mon dieu.
Firewatch, quoi. Non, il y a un jeu gratuit. Non, What Remains of Edith Finch, qui est pareil, un excellent jeu indépendant. Ils font vraiment tout pour ramener et les joueurs et les développeurs sur leur plateforme. Donc c'est super intéressant. Et c'est vrai que là, même si Valve a encore quelques mois, voire années devant eux, ils ont intérêt à anticiper vite. Et j'ai pas l'impression que ce soit les rois pour. C'est toujours compliqué de savoir ce qui se passe chez Valve parce que c'est une compagnie extrêmement secrète. Mais ils ont pas toujours été hyper réactifs sur ces trucs-là, donc je sais pas, faut voir.
Bah, là où ça va être compliqué pour eux de pas réagir, là où c'est hyper intéressant dans ce que disait Tim Sweeney, qui a un historique de presque militant, alors militant dans un sens qui bénéficie à Epic, mais presque militant dans son combat entre guillemets pour le consommateur. Et ce qu'il dit, c'est que ils ont énormément d'expérience dans le domaine maintenant avec Fortnite, et il se rend compte que vraiment, enfin, on s'en doutait, mais là, il en a la preuve, que les 30% qui sont demandés par les opérateurs de store sont complètement démesurés. Les coûts réels sont de l'ordre de, on va dire, 5 à 7%. Et les coûts fixes sont négligeables, donc c'est juste les coûts d'opération de maintien et de fourniture de services, et ils sont de 5 à 7%. Et donc, le fait de faire payer 30%, c'est quelque chose de complètement... alors, on ne dit pas abusif, parce que c'est un petit peu poussé le terme, mais il n'empêche qu'il n'est pas nécessaire. Et donc, la concurrence, là, qu'il va mettre en place, est très saine. Et oui, moi, je ne vois pas comment Steam pourrait continuer sur le long terme. Je pense qu'en 2019... au plus tard, ils vont, enfin fin de l'année au plus tard, ils vont annoncer quelque chose de différent chez Steam et de plus notable que ce qu'ils avaient mentionné déjà quelques jours avant l'annonce de l'Epic Game Store, enfin de la monétisation de l'Epic Game Store, qui était genre réduit à 25 ou 20% si vous vendez 40 milliards vous faites 40 milliards de ventes. Donc oui, c'est quelque chose de vraiment important et qui risque de... Alors, ça ne va pas changer les relations avec les consommateurs vraiment, parce qu'au final, non. Les consommateurs, nous, on va quand même continuer à payer nos jeux le même prix. Oui. Mais par contre, pour les développeurs, ça ne va pas non plus influencer les gros développeurs, je pense, qui, eux, vont se contenter de ramasser un petit peu plus d'argent. Ça va peut-être changer un petit peu les choses pour les développeurs plus modestes. Ça va permettre de créer des conditions plus favorables à des studios indépendants ou semi-indépendants double A, parce que évidemment si on leur dit vous récupérez 70% et tout à coup là vous passez à 88%, enfin 18% de revenus en plus, c'est monumental, surtout que sur 70% ça fait plus que 18%.
Oui.
Donc c'est vraiment enfin imaginez si demain on vous dit bah vous gagnez 25% de salaire en plus, je pense que ça change la manière dont vous envisagez votre vie.
Ah là
quoi.
Je comprends très bien ce que tu veux dire.
Donc alors la petite note à faire quand même, c'est que pour les autres qui avaient essayé de bousculer les choses, tu mentionnais Good Old Games, JK, il y en a d'autres.
Ouais. Eux, il y a Discord aussi récemment qui a lancé un truc comme ça.
Ouais, mais Discord là-dedans.
Et qui s'aligne sur la politique, du en gros 90-10 ou 88-12, quoi.
Ils sont à 90-10, t'as raison, mais Discord a le bénéfice d'avoir une population déjà existante. D'ailleurs, ils sont passés à, je crois, 200 millions d'utilisateurs, alors qu'ils étaient à quelque chose comme 50 millions il y a un an, quoi. Enfin, c'est monumental. Mais des stores comme Good Old Games, alors ils ont le bénéfice d'avoir des jeux sans DRM. Mais ça n'a pas l'air d'être suffisant pour attirer les joueurs. Et du coup, maintenant que Epic vient bousculer les lignes des revenus, je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire, ces autres stores. Parce que tu vois, ils sont à 30%, est-ce qu'ils vont eux aussi devoir passer à 10-12%? Mais du coup, est-ce qu'ils vont pouvoir opérer quand même? Enfin, quand même, Good Old Games, c'est CD Projekt, donc ils ont d'autres choses derrière. Ce n'est pas un petit groupe indépendant. Mais je ne sais pas ce que ça va vouloir dire.
Après, GOG est sur une cible aussi très niche d'amateurs, bon, déjà de jeux indés, certes, mais aussi de rétro gaming, parce que ça reste, malgré tout, aujourd'hui, leur credo, ça reste, d'où le nom du site à la base, hein, Good Old Game, c'est de ressortir des anciens jeux PC auxquels on peut jouer comme ça sur Windows 10, quoi.
C'est vrai, mais je pense qu'ils avaient des ambitions un petit peu plus vastes que ça, et qui vont être compliquées. Enfin, cette remise en place du... J'ai l'impression qu'on est en train de voir ce qui s'est passé dans le mobile, dans l'industrie du mobile, mais...
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Ouais, on compare à l'arrivée de Free, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement, avec l'arrivée avec le discours de Niel.
Un petit peu, ouais.
Opérateurs. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Alors, tu disais que ça n'allait rien changer pour le consommateur dans l'absolu. Parce qu'il y a quand même un truc qui va être important, c'est qu'il se peut que tu switches de store. Alors, évidemment, ça paraît bizarre de dire ça. Parce que sur Steam, tu as déjà tous tes jeux et de toute façon, l'affaire, elle est pliée. Tu ne vas pas laisser tomber tes 250 jeux que tu as payés de 2,50€, mais auxquels tu n'as quasiment jamais joué. Donc, en fait, comme tu n'y as jamais joué, finalement, ils ont moins d'importance. Et du coup, il se peut en fait que le switch se passe, alors pas tout de suite, hein, sur un autre portail, mais le Epic Games, s'il arrive à s'étoffer, peut est tout à fait capable, effectivement, de faire basculer les gens sur 2, 3, 4 ans, 5 ans. Quoi.
Moi, je crois qu'il est acté aujourd'hui qu'on a plusieurs stores et que voilà, c'est malheureusement la vie dans laquelle on vit, mais c'est mieux que d'avoir un monopole et une position dominante. Mais il y a des gens qui se plaignent effectivement que il faut encore un store, machin, mais enfin, soyons honnêtes, si on est un petit peu gamer core, on a déjà au moins 2, 3, 4 stores installés sur son PC et voilà, et c'est le.
Je suis d'accord, mais tu as dû remarquer un truc quand même, c'est que Steam, c'est toujours pareil, je le trouve pas très adapté, je le trouve assez dégueulasse en vrai. Et très honnêtement, en termes d'interface, je trouve Epic déjà beaucoup plus friendly user en fait.
Oui, je suis d'accord, ouais.
Donc je pense que ça peut changer pas mal de choses. Il y a moins d'options que sur Steam, mais c'est déjà beaucoup plus friendly user, je pense que ça peut faire la différence aussi. Voilà.
C'est vrai, ils sont aussi, tu sais, ils viennent d'arriver, hein, donc ils n'ont pas tout le. Et c'est peut-être ça qui est positif, c'est qu'ils n'ont pas tout le passif et toutes les fonctionnalités qui viennent alourdir un Steam qui est un petit peu d'une autre époque, quoi.
Clairement.
Bon, bah, puisqu'on parle justement des jeux qui arrivent sur, l'Epic Game Store, peut-être qu'on pourrait évoquer rapidement Bungie, à qui, à mon avis, Tim Sweeney a dû passer un petit coup de fil rapide en disant « Ah, vous savez quoi, l'Epic Game Store, il est super sympa, ça vous dirait pas de venir chez nous ?» Et je suis... Alors, ce qui se passe, tout le monde en a entendu parler, j'en suis sûr, Bungie et Activision ont décidé de se séparer. On sait bien qu'ils avaient un contrat qui les liait pour la publication, pour l'édition du jeu Destiny, de la série Destiny, et ce depuis 8 ans. Le contrat était censé les lier pendant 10 ans et ils ont donc décidé d'y mettre un terme avant la fin du contrat, donc au bout de 8 ans. Destiny, on s'en souvient, est sorti en 2013, je crois, la première version.
Je crois que c'est 2013-2014.
C'est ça. Alors, on imagine bien que la raison de la séparation est que les deux parties n'étaient pas tout à fait satisfait de la manière dont les choses se passaient. L'opinion la plus populaire chez les joueurs, je pense, est que Bungie était alourdi et encombré des décisions d'Activision qui venaient se mêler de son processus de développement. Je suis sûr qu'il y a une part de vrai là-dedans. Je pense aussi qu'on surestime un peu ou plutôt qu'on sous-estime la capacité de Bungie à se mettre des bâtons dans ses propres roues. je crois qu'il y a eu des problèmes dans Destiny qui étaient du fait de Bungie et pas uniquement d'Activision, même si bon, s'il y a plus Activision qui vient mettre son nez là-dedans, peut-être que ça leur permettra de développer des jeux plus conformes aux attentes des joueurs, c'est possible. En tout cas, c'est une grosse nouvelle, un gros événement, d'autant plus que la partie vraiment importante, c'est que les droits de Destiny restent chez Bungie. Ce qui est, alors on se demande, c'est inattendu. On se souvient que quand Bungie a quitté Microsoft, ou en tout cas a mis fin à son contrat avec Microsoft, Halo est resté chez Microsoft, désormais développé par 343 Industries. Et donc là, c'est une super bonne nouvelle pour Bungie, qui garde leur propre licence qu'ils ont mis des années à construire et qu'ils vont pouvoir développer de la manière qu'ils veulent. Une autre grande question, c'est qu'est-ce qu'Activision récupère de cette fin de contrat anticipé ? Sans doute beaucoup d'argent, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que Bungie en a payé un petit peu ? Est-ce que l'argent qu'ils devaient payer à Bungie sur les deux dernières années de leur contrat, du coup, évidemment, ils ne vont pas le payer, donc eux, ça les arrange de le garder pour eux. Ça pose des questions sur ce que fait aujourd'hui Activision, parce qu'ils n'ont plus beaucoup de licences. Ils ont... mettons bien la différence entre Activision et Blizzard. Au-dessus, il y a Activision Blizzard, mais le contrat de Bungie était avec Activision tout court. Donc, ils ont quand même Call of Duty et quelques autres trucs, mais bon, ça fait quelques années que c'est pas non plus la plus grande librairie de jeux disponible. Plein de questions là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai entendu un petit acquiescement de JK. Qu'est-ce que t'en penses de tout
ça ? Non, le souci, c'est qu'effectivement, Activision a évidemment pas mal de licences, mais c'est quasiment que des licences qui sont soit en perte de vitesse, soit leur gloire est un peu derrière elle malgré tout, et on voit mal comment ça pourrait complètement changer. Enfin, Call of Duty, ils ont encore très bien, mais c'est plus le Call of Duty de l'époque de Black Ops, tu vois. Donc après, d'un autre côté, Destiny, on le sait, notamment Destiny 2, a déçu Activision en termes de, par rapport aux attentes qu'ils avaient, en termes de chiffres de vente, etc. Ça reste des jeux qui ont très bien marché, je crois. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais Activision en attendait plus. En fait, le truc, c'est qu'Activision veut... c'est une société qui se porte encore très bien aujourd'hui, mais je pense qu'ils veulent... Eux, ce qu'ils veulent, c'est toujours être au top, toujours être numéro 1, toujours avoir des trucs qui surcartonnent, etc. Et... des licences qui marchent, mais sans plus, ça les intéresse pas trop, quoi. Alors,
je pense, si je puis me permettre, ils attendent l'autre jeu différent de Call of Duty, en fait. Je pense qu'ils cherchent un jeu, parce que là, c'est quand même Call of Duty qui, je sais pas si ça fait marcher la maison, c'est un petit peu exagéré, mais c'est le jeu qui revient chaque année, etc. Et ils attendent quelque chose, parce qu'ils sentent aussi l'essoufflement, donc ils attendent un nouveau gros truc qu'on pourra sortir chaque année, comme le fait Electronic Arts avec son FIFA, ou comme le fait Assassin comme le fait Ubi avec son Assassin, mais quelque chose de différent de Call of Duty, parce que ça, c'est de l'acquis, en fait, même si c'est en perte de vitesse. Donc, je pense que c'est ça que tu...
Alors, certes, même si, enfin, tu vois, c'est ce qui est étonnant, c'est que là, ils éditent Sekiro, c'est Activision qui fait Sekiro, mais je vois mal Sekiro devenir une licence à la Call of Duty. Enfin, c'est même sûr, ça me paraît impossible.
Ils font plein d'autres jeux, mais ils éditent plein d'autres jeux, mais je veux dire, ils attendent surtout le gros jeu chez eux qui va remplacer, qui va prendre le pas.
A priori, Destiny était parti pour être cette licence-là, mais ça finalement non, quoi. Finalement non, et c'est surprenant c'est surprenant. Oui, c'est quand même surprenant. Et a priori, oui, on sait que c'est plutôt une bonne nouvelle pour Bungie qui a l'air d'être. Enfin, on lisait notamment Jason Schreier qui a écrit l'article sur Kotaku. Voilà, il a eu des échos en disant que apparemment chez Bungie c'est plutôt la fête parce que voilà. Après, est-ce que Bungie a les reins assez solides pour alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Bungie va devenir indépendant et va essayer de s'auto-éditer? Mais est-ce qu'ils ont les reins assez solides pour ça? Je sais pas. Hein.
Alors, ils vont s'auto-éditer, c'est sûr. C'est la fête chez Bungie, évidemment. Je pense que la vision d'Activision est toujours un petit peu négative, mais surtout, je pense que le fait qu'ils gardent Destiny, c'est une super bonne nouvelle pour le studio.
Ouais,
c'est magnifique,
ça, c'est sûr.
Surtout avec l'histoire de Halo. Et puis, est-ce qu'ils vont s'auto-éditer? C'est sûr qu'ils vont s'auto-éditer, mais il faut pas oublier qu'il y a, je sais pas, quelques semaines, on parlait du fait que NetEase a donné 100 millions de dollars à Bungie pour le développement d'une nouvelle licence. On imagine que peut-être elle est sur mobile, je sais pas, mais en tout cas NetEase, ils aiment bien les jeux mobiles parce que c'est un développeur chinois, c'est une société chinoise. Ça me paraît très bizarre qu'ils donnent 100 millions de dollars à Bungie juste pour faire des jeux sur PC, peut-être, hein, on sait jamais, mais peut-être qu'il y aurait une version, enfin bref, on sait pas, mais là encore, NetEase, le grand méchant de l'histoire dans d'autres cas, bah ça permet à Bungie de se libérer, oui, parce que sans ça, ils auraient du mal, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire pour Destiny le prochain? Alors, est-ce qu'il va y avoir une extension? Moi, j'imagine que ça va être Destiny 3. Je disais, en plaisantant sur Twitter, on se demandait ce qu'il faudrait pour que les joueurs redonnent encore une chance à Bungie avec Destiny 3 après leur avoir donné une chance pour Destiny 1 et Destiny 2 et avoir été déçus. Je parle de la plus grande majorité des joueurs. Hein. Les joueurs de Destiny sont très très contents aujourd'hui de Destiny 2. Moi y compris, j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour y jouer. Le jeu est le meilleur qu'il ait jamais été, mais évidemment, les gens qui l'ont essayé, qui ont été déçus deux fois, ils vont peut-être pas réessayer une troisième fois. Sauf que, si tu dis maintenant il n'y a plus Activision qui est derrière et qui corrompt tout, eh ben peut-être que les gens vont se dire Destiny sans Activision, je veux voir ce que ça donne. C'est vraiment, je plaisante, mais à moitié, quoi. Je pense qu'il y a une chance que ça donne ça. Alors peut-être. Ensuite, il y a plein de questions, des petites questions techniques, genre est-ce qu'il sera encore sur le Battle.net launcher? A priori, non. Moi, je pense qu'il ira chez l'Epic Games s'il y a un nouveau Destiny qui arrive. Pour le moment, Destiny 2 continue, et enfin, il va continuer pour toujours sur le Battle.net launcher, je pense, avec le support, avec tout ça, parce que là, ils sont engagés.
Tu l'as payé, j'espère, pour eux. Hein, parce que
bien sûr. C'est ça. Non, ou alors, il pourrait faire un truc genre, il s'arrête, je sais pas, en 2020, et on vous bascule sur le Epic Games gratuitement, tu vois. Un truc du genre, ça serait possible. Mais bon, a priori, pour le moment, il y est, et je pense que c'est pour le futur proche. Mais oui, ça pose plein de questions pour Bungie, ça pose des questions pour Activision aussi. Moi, je pense vraiment que les gens ont, comme toujours, tendance à surestimer l'aspect négatif d'une société comme Activision, qui a quand même aidé Bungie au niveau marketing, au niveau publishing. Enfin, Destiny était un phénomène monumental parce qu'il y avait les reins d'Activision derrière qui a mis énormément d'argent dans la communication, etc. Et ça, on a tendance à le sous-estimer. Il est tout à fait possible que Bungie édite son jeu tout seul. C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont annoncé. Ils vont le faire tout seul en self-publishing. Et aujourd'hui, bien sûr, le panorama est beaucoup plus facile à gérer pour un éditeur de cette taille, pour un développeur de cette taille qui est quand même gros, pour publier son jeu tout seul. Mais au niveau du jeu lui-même, ils ont beaucoup appris pendant ces 6 dernières années. Je suis curieux de voir ce que va donner la suite de Destiny, c'est sûr. Mais encore une fois, on pourrait parler de l'histoire de Destiny et je pourrais dire qu'est-ce qui est du fait de Bungie, qu'est-ce qui est du fait d'Activision. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent tout ce qui était terrible, c'était Activision, tout ce qui était bien, c'était Bungie. Je crois que les choses ne sont pas aussi simples. Mais
ça, c'est la vision du joueur classique. Hein.
Et malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Mais bon, il n'empêche que moi, grand fan de Destiny, je suis du coup encore plus curieux de voir ce qui va se passer avec la suite de cette série. Et puisqu'on parle de Bungie et de jeux as a service, un petit mot, là on va passer des news un petit peu plus rapidement. Halo Infinite a reçu quelques détails supplémentaires. Ils ont dit qu'ils allaient, enfin 343 a déclaré qu'ils voulaient rendre accessible la bêta de Halo Infinite et puis ajouter des joueurs au fur et à mesure. Ce qui, à mon sens, indique très clairement que c'est un jeu as a service. On avait déjà, on imaginait la chose avec un nom comme celui-là. Mais pour ce genre d'opération, si tu veux faire un jeu classique, tu fais une démo et puis elle disparaît, ou une bêta et elle disparaît. Là, on lance en bêta et puis on ajoute des joueurs. Ça, c'est un jeu as a service, c'est sûr. Et il va jamais s'arrêter.
Ça paraît logique. Ça paraît logique. Je suis d'accord.
La PlayStation 4 a désormais plus de 91 millions de consoles installées. Donc l'arrivée à 100 millions est à peu près acquise pour cette année. Hein. On s'en doute.
Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus.
Dreams arrive en bêta sur PlayStation 4 après la Insider Preview, je ne sais plus comment ils l'ont appelé.
Ouais.
Et vous êtes encore qu'est-ce que vous pensez de Dreams? C'est un petit bizarre.
Bah moi, j'ai peut-être enfin comprendre ce que c'est exactement. Non mais c'est vrai, honnêtement, c'est quoi Dreams? Moi, tu me demandes c'est quoi Dreams, je serais incapable de te résumer le truc, quoi.
C'est un outil de création qui te permet de créer des univers interactifs comme des jeux ou juste des œuvres d'art.
De Ah, je crois que c'était le jeu de Sega.
Ah oui, non, c'est un remaster de Night into Dreams. Ouais, c'est ça. Nights. Non, franchement, les jeux de Media Molecule. Après, c'est super ce qu'ils font. Enfin, c'est super que une boîte comme ça existe et fasse toujours des jeux. Et,
c'est bien qu'il y ait des gens comme ça.
Mais c'est hyper important. Après, c'est plus trop des trucs pour moi, quoi. C'est le côté coffre à jouets. Bon, voilà.
C'est la Chica Royale.
Voilà.
HTC a annoncé deux nouveaux casques, le Vive Pro Eye qui a un tracker de pupille, donc qui va pouvoir voir où vous regardez. Ça peut servir pour mieux rendre le monde en 3D, render.
En fait, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le rendu fovéa, je crois que c'est le mot français. Ouais. Ce qui fait que les calculs vont se concentrer sur ce que tu regardes, donc ça permet de libérer la puissance de calcul pour le reste, ça c'est plutôt cool. Et a priori, tu pourras aussi contrôler ton interface au regard. Ils ont dit que ça pouvait être même, on pouvait se passer de contrôleur, puisqu'il suffit de regarder à tel endroit de l'image pour contrôler un truc. Alors, faut voir si ça fonctionne bien. Je sais pas, faut voir. Au CES, c'était présenté au CES. Il y en a qui l'ont essayé, mais je t'avoue que j'ai pas trop regardé les retours.
Que ce soit combiné avec une manette, en fait. Les deux en même temps, juste le high à ce moment-là, c'est du travail.
C'est un peu compliqué, ouais. Et il y a aussi le Vive Cosmos, sur lequel on n'a pas beaucoup de détails, mais c'est un nouveau casque qui fonctionnerait alors avec PC ou avec téléphone mobile, avec câble ou sans câble, enfin, on ne sait pas très bien, mais c'est un nouveau casque, un nouveau modèle, en plus du nouveau Vive Pro. Et ce qui est clair, c'est que HTC continue à croire en la réalité virtuelle et avec les expériences... ils ont un peu plus que ça, c'est vrai. Mais avec les retours qu'on a, anecdotiques, mais enfin quand même significatifs, un petit peu, je pense, de gens qui ont essayé le PSVR comme toi, Aymeric, j'ai l'impression
j'ai essayé tous les casques, hein, donc.
Je veux dire, tu es enthousiasmé par le PSVR là pendant les vacances.
Bon, même si j'avais les moyens, je me serais pris aussi les casques le plus haut de gamme sur PC. Et oui, évidemment que je suis enthousiasmé. Par contre, c'est une contrainte gigantesque encore aujourd'hui en termes de fil qui est pas supportable dans un salon ou même sur un PC, hein. donc
même pour le PSVR. Mais c'est pour ça que je me dis, mais ce que ça indique
pour le PSVR, 8 fils.
Ce que ça indique là, c'est que peut-être, possiblement, que la réalité virtuelle n'est pas un truc qui est mort en 2018 et que ce petit regain d'intérêt indique qu'il y aurait peut-être des casques avec un confort d'utilisation plus grand, ça pourrait continuer à être intéressant. Et moi, comme je crois que je le disais dans le dernier épisode, je suis pas sûr, mais je continue à penser à espérer que Sony n'abandonne pas la chose et que peut-être pour la prochaine console, il serait possible d'utiliser un PSVR existant. Et peut-être qu'il créerait, parce que c'est qu'un écran finalement, à peu de choses près, et peut-être qu'il sortirait un nouveau modèle plus simple, peut-être pas sans fil, mais avec juste un fil, etc.
Donc il y a la problématique du confort qui est très importante en fait aussi. Il y a la problématique de la bibliothèque de jeux qui est aussi est minime comparée à ce qu'on peut avoir sans ces casques-là. Il y a aussi le problème du prix. Et en fait, là, on va arriver dans la deuxième phase qui est la phase où les prix vont commencer à drastiquement chuter en fait. Et la guerre va se faire là-dessus. Je pense que tout le monde se paiera un casque VR quand ce sera super abordable en fait. Il n'y a pas de doute. Tout le monde a envie d'essayer ça en fait. Donc il y a aucun doute là-dessus. Après, il faut que la bibliothèque s'étoffe un petit peu sur tous les, quel que soit le type de casque, il faut qu'il y ait des vrais jeux en fait. Il n'y en a pas encore énormément en vrai comparativement à la production qui est faite. Il y a surtout beaucoup d'expériences qui est quand même très très différent d'un vrai jeu, et payer une expérience sur PlayStation, 20 balles, ça fait mal au cul hein.
Sur PlayStation, je dirais que ça commence à devenir à peu près potable quoi.
Je suis d'accord. Par contre, c'est le plus mauvais casque techniquement. Donc, je veux dire, les jeux qui sont vraiment intéressants.
Plus mauvais, oui et non. Il y en a qui sont, bon, qui sont même pas vraiment des casques VR, genre le Facebook Oculus Go, là.
Bien sûr. C'est autre chose.
Mais celui-là, il est, oui, disons que quand tu es dedans, ça gêne pas énormément.
Confortable. Je suis d'accord. C'est le plus confort des trois casques, hein, par contre, attention. Ouais. Que ce soit clair, en termes de confort, c'est le plus confortable quand on le met sur la tête. Hein,
mais je veux dire, graphiquement, ça gêne pas. Tu dis pas, oh mon Dieu, c'est horrible, je vois tous les pixels. Ça se voit un petit peu, mais c'est pas...
Mais quand tu passes d'un casque à l'autre, par contre, là, c'est choquant.
Faut
voir aussi que les premiers jeux PSVR qui sont sortis il y a 2 ans sont graphiquement beaucoup, vraiment moins bons que ce qu'on a aujourd'hui dans sortie PSVR. Tu prends Astrobot qui est sorti récemment.
Gros effort, voilà, Astrobot notamment.
C'est la même dalle, hein, donc je veux dire, c'est la même dalle sur le même casque, et pourtant le rendu de la 3D sur Astrobot, il éclate tout ce que j'ai pu voir sur le PSVR jusqu'ici. Donc c'est vraiment du très très bon. Même le dernier Borderlands 2 VR qui est sorti là, qui est donc la version VR du Borderlands 2 sorti il y a quelques années, est très très propre aussi. Et je veux dire, quand tu reprends un des premiers jeux sortis sur le VR, ça n'a rien à voir, quoi. Je dirais pas que c'est de la bouillie, mais c'est beaucoup moins propre. Donc ils peuvent faire des grosses évolutions sur la même dalle. Donc ça, c'est quand même très important, quoi.
Ouais. Bon, allez, quelques petites news rapides. Céleste est disponible sur Xbox Live Gold. Céleste, jeu de l'année 2018, hein, comme vous le savez.
Je vais essayer, donc, comme ça, je serai content.
Ah bah voilà, et tu peux le récupérer. Tous ceux qui ont le Xbox Live Gold...
Chanceux que tu es.
Récupérez-le tout de suite. Amazon serait en train de développer eux aussi leur service de streaming de jeux vidéo. Oui. C'est pas pour tout de suite, mais voilà, encore un. Et il y aurait Verizon visiblement qui serait en train de travailler là-dessus aussi. C'est un fournisseur d'accès internet aux États-Unis. Donc décidément, tout le monde s'y met. Enfin, oui, vas-y.
Non, je disais juste que tous les signaux là sont ouverts pour dire que 2019 ce serait normalement, je pense, l'année de l'explosion du cloud gaming. Tout le monde y va, quoi. Microsoft, Amazon, moi, je pense que... Google, sans compter ceux qui sont déjà là, Shadow et Nvidia notamment. Plus l'arrivée de la 5G en plus. Bon, on est plus sur la fin 2019, mais je pense que
2020-2021.
Ouais, voilà, mais je pense qu'on arrive là cette fois-ci à l'an presque zéro, l'an 1 de vraiment la démocratisation du cloud gaming, et ça va se développer, ça me semble inévitable, quoi.
Ouais. Et enfin, est-ce que vous pouvez parler de cette histoire sordide de procès entre Randy Pitchford, le président de Gearbox, et son ancien responsable? Lui, il a toujours été un petit peu... je sais pas.
C'est jamais bête, son histoire, allez.
Il y a un procès entre l'ancien responsable légal de Gearbox et donc Randy Pitchford, nommément, selon lequel il aurait siphonné de l'argent de la boîte, et qu'il aurait il a été avéré qu'il a perdu une carte USB, une clé USB sur laquelle il y avait des documents confidentiels et des éléments de sa propre collection personnelle de contenu pornographique. Collection personnelle, et il y aurait visiblement, enfin, certains disent qu'il y aurait du contenu pédopornographique. Lui, il dément de manière véhémente. Il dément le fait que ça soit du contenu pédopornographique. Par contre, il admet tout à fait qu'il y avait du contenu pornographique. Ce qui, j'imagine que c'est pas la première personne au monde à avoir consulté du contenu pornographique, on va dire.
Pas grave.
Mais bon, il y a toute une série d'histoires. Je voulais le mentionner parce que c'est gros. Mais après, c'est un procès entre deux personnes dont on ne sait pas qui dit la vérité et qui dit autre chose. On en aura les conclusions à un moment. Mais
Le bah, seul... surtout, ça pose la question de déjà, est-ce qu'il va rester président de Gearbox, quoi, hein, tu vois, avec tout ça. Et puis derrière, que fait Gearbox? Parce que Gearbox, ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend qu'il se passe quelque chose chez eux. Il y a évidemment, bon, tout le monde attend l'annonce de Borderlands 3 qui ne vient toujours pas. À moins que je me trompe, mais là, j'arrive même pas à savoir sur quel projet ils sont, Gearbox. Là.
C'est quoi là? Borderlands 2 VR.
Ouais, ouais, super, bah, voilà. Et d'accord, est-ce que c'est eux qui l'ont fait en interne? Je ne suis même pas sûr.
Je ne suis même pas sûr, je crois que je vais essayer.
Et donc voilà, et qu'est-ce que... Ouais, que fait Gearbox, quoi?
Ils sont plantés avec, comment il s'appelait, ce jeu qui a eu le malheur de sortir au même moment qu'Overwatch.
De Overwatch-like, enfin de brawler hero, là.
Qui n'avait pas marché du tout, malheureusement.
Je ne me souviens même plus de leur nom. Bah, c'est leur dernier jeu, je crois. Effectivement, ça s'est planté. Alors que tu sais très bien que s'ils veulent remplir les caisses, ils sortent Borderlands 3 et puis on n'en parle plus, quoi.
Mais du coup, comme je le disais à propos de Blizzard, est-ce que ce n'est pas la chose sérieuse, la chose pro-consumer, pro-adulte à faire, de ne pas le sortir s'il n'est pas prêt, quoi? Tu vois, évidemment, ils pourraient le sortir. Ils auraient pu l'annoncer à l'E3 l'année dernière.
S'il était prêt, il le sortirait, bien sûr. Ouais. Mais disons qu'il y a plus toutes ces histoires.
Comme tu disais, Emric, c'est complètement anecdotique. On n'a aucune information. Enfin, personnellement, en tout cas, j'ai aucune information sur le caractère de Randy Pitchford. Mais moi, je le sens pas, ce mec. Je sais pas pourquoi. c'est juste un feeling, quoi. Bravo. Et c'est peut-être complètement usurpé.
Je suis d'accord. Après, moi, j'en ai jamais rien à foutre de ce gars-là, donc je me pose pas la question. Ouais.
Il a pas une très bonne réputation dans le milieu, je crois, d'une manière générale, de toute façon.
Tout a l'air un peu pas clair. Maintenant, je le connais pas, donc on va pas s'emballer.
Courir des rumeurs.
Ce qui est sûr, c'est que regarder du porn en développant des jeux ou en jouant aux jeux vidéo, c'est pas nouveau.
Donc voilà. On va dire que même en faisant d'autres choses, je suis sûr que bon.
Voilà. Donc,
Mais bon, bref, voilà, donc il y a ce procès qui est également en cours. Je suis sûr qu'on en entendra un petit peu plus parler dans les mois à venir. Et ça conclut notre épisode d'aujourd'hui. J'aimerais remercier très très chaleureusement Jika et Emric d'avoir été présents avec moi pour commenter tout ça. Est-ce que vous pourriez nous dire l'un et l'autre où on peut vous retrouver sur l'internet si les auditeurs veulent un petit peu plus de vous? Commençons par l'invité qui est là le moins souvent, Emric.
Moi, tu peux me retrouver, je fais de temps en temps des petits papiers sur jeuxvideo.com, je fais des tests de petits jeux sur jeuxvideo.com aussi, donc il suffit de taper mon nom dans la barre de recherche et tu les trouveras, et voilà. Et sinon, je fais un petit peu de YouTube et un petit peu de Twitch sur du Dragon Ball Legends, justement, j'en parlais, donc on peut me retrouver là-bas aussi, voilà.
Très bien. Et je mettrai le lien vers ton compte Twitter, duquel je suis sûr
Twitter
qu'on peut
aussi,
voir.
Effectivement, il faut que je me force. Je suis de moins en moins actif sur Twitter parce que j'ai du mal avec la population. Donc,
voilà. D'accord.
Mais il faut
écoute, les auditeurs du rendez-vous tech sont de grande qualité. Donc, tu vois, c'est avec eux qu'il faut interagir. Voilà. Mais en tout cas, je suis sûr qu'il y a des liens vers tout ce que tu fais d'autre sur ton compte Twitter.
Tout à fait.
Et Jika.
Moi, écoute, ça n'a pas changé, comme dit Rolou Iglesias, je n'ai pas changé, c'est n'importe quoi,
c'est
décidément,
entre
mon ouverture et ma conclusion, c'est une catastrophe. Toujours les numériques.com, pour des sujets plus high-tech, informatique et compagnie. ZQSD, on a sorti, le dernier numéro date un petit peu, on l'a sorti toute fin décembre, où on élit notre jeu de l'année, donc je ne vais pas spoiler quel est le jeu de l'année ZQSD, mais allez l'écouter, c'est une émission qui est quasiment consacrée que à ça, avec un jeu interminable de préparé par Diz.
Je l'ai pas écouté encore, mais je vais parier que le nom du jeu de l'année commence par sub.
Ah, écoute, tu verras.
Tu verras.
Je ne dis rien.
Okay, okay.
Ça commence par sub et ça finit par l'est. Sub-l'est. C'est un mélange des deux.
Vous savez que ça aurait valu le coup qu'on s'arrête deux minutes sur ce jeu quand même. Je ne pourrais pas dire, mais bon.
On en a beaucoup parlé les dernières.
Série, ouais.
Ok, très bien.
Et dans le podcast Les Numériques, qui est toujours là une fois par mois, le prochain numéro va être enregistré cette semaine. Grosse exclue, je l'annonce. Il sortira donc la semaine prochaine, voilà.
Super, merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez me retrouver sur tous ces réseaux. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr où vous retrouverez également le rendez-vous tech. Entre parenthèses, vous pouvez bien sûr venir commenter tout ce qu'on a dit sur frenchspin.fr à loisir, sur l'article de cet épisode spécifiquement. N'hésitez pas à venir le faire si vous avez des choses à dire, si on a dit des bêtises ou des choses intéressantes, vous pouvez nous le faire remarquer. Et si vous voulez également aider le rendez-vous jeu, vous pouvez le faire en commentant ou en mettant des notes sur les catalogues de podcasts que vous utilisez, comme notamment iTunes. D'ailleurs, il y a un ami belge du nom de Cinegero qui a dit « Incontournable, fan de jeux vidéo, mais pas le temps de consacrer le temps nécessaire à écumer tous les sites et blogs de la toile pour vous tenir informé des news importantes. Ce podcast est fait pour vous et vous résume chaque semaine, bon, toutes les deux semaines, ce que vous devez savoir pour rester en contact avec le monde trépidant du jeu vidéo. Patrick maîtrise son sujet et c'est un plaisir de l'écouter. Merci à toi, Cinegero. » En plus, il a laissé un commentaire comparable sur le rendez-vous tech, donc je l'aime doublement. Donc si, comme lui, vous appréciez l'émission, vous pouvez laisser des commentaires ou conseiller l'émission à vos amis, faire ce genre de choses. C'est vrai que c'est par le bouche à oreille que le podcast se fait connaître, donc n'hésitez pas à en parler à ceux que vous connaissez et dont vous savez qu'ils apprécieraient l'émission. C'est vrai que dans ce podcast, comme j'en parle de temps en temps, on essaye de faire quelque chose de vraiment très inclusif du jeu vidéo en général. On a des gens de tous horizons, on a des news très différentes, des infos sur plein de jeux différents. Et c'est un travail de chaque instant et de chaque épisode qui n'est pas toujours facile, mais votre soutien nous permet de continuer. Donc un grand merci à vous tous et n'hésitez pas à le recommander à vos amis. On vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous donc dans deux semaines pour le prochain épisode. Ciao à tous.
À plus tard.
Bye. Salut.